Comment ça va les amis? Ah, on se cale la prochaine, on allume la caméra. La prochaine, six prochains morceaux il y a pour une pause café tout à l'heure. Ah ouais, c'est très très bon. Voilà, ça mérite une petite pause café. Ça va vous? Bien, heureux de vous retrouver ce lundi. Profitons-en parce que j'ai ma semaine qui pique à question pour un champion qui va reprendre mercredi. Donc, revue de presse ce matin. J'espère demain matin aussi. Peut-être, oh, est-ce qu'on peut envoyer plein de force à Totoff? Planning chargé ici, petit moral, nous dis-tu à l'instant. Peut-être une parole Étienne spéciale réforme des retraites demain soir mardi. Voilà, si j'ai le courage, je vais essayer de le trouver quand même. Donc, profitons de cette revue de presse ce matin. Il y a des choses assez intéressantes, et pas seulement sur la réforme des retraites. Sachant que dimanche prochain, il y aura aussi une revue de presse, bien sûr. Bon, minimum trois revues de presse cette semaine. Même si j'aimerais être là tous les jours. Je suis en retard, je suis pas très très en avance, notamment parce que OBS a un peu fait des siennes. Quand j'ai allumé, il n'y avait rien qui fonctionnait. OBS, c'est le logiciel de stream que j'utilise pour ceux qui se posent la question. Et un retour caméra très étrange. Alors, je ne sais pas si c'est juste un truc dans mon retour écran, dans mes réglages, mais la tête que moi j'ai dans mon retour, là, non, ça a l'air d'aller chez vous en fait. Ah, c'est chez moi en fait. Dans mon retour, donc via OBS, mon visage fait à peu près 2 cm de large. C'est très 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 étroit. Et je vois que dans le retour sur l'appli Twitch, ça va en fait. J'ai à peu près ma tête normale. Donc rassurez-moi, avant de démarrer, est-ce que j'ai ma tête habituelle ou est-ce que je suis très très très... Ah si si, ah oui c'est ça. Il y a Rimek qui me dit que j'ai une tête un petit peu allongée. Dixon me dit que c'est bizarre. Non, c'est bizarre. J'ai une tête normale, me dit Jelly. Ah bah mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Un peu allongé, un peu allongé. Ouais. Ouais. Un petit peu allongé, ouais. C'est bizarre. Ou alors j'ai maigri. Le format est un poil bizarre, mais c'est pas géant. Tu es aussi allongé qu'un café. La qualité n'est pas habituelle. Tu es un peu allongé, mais pas beaucoup. Tu as simplement maigri. J'ai maigri un petit peu, je pense. Fais attention. Tu es très beau, ne t'en fais pas. Joe. Ah, alors, bon, alors Joe, ça m'intéresse parce que Joe, c'est mon sidekick, c'est mon partenaire de crime sur Twitch. Et Joe me dit, pour moi, tu as la tête de tous les jours. Ah, mais c'est un peu mon sentiment aussi sur ce retour. Bon, Joe, sache que quand j'ai allumé OBS, c'était un peu bizarre. Il y a des trucs un peu étranges et que voilà, j'avais cette espèce de tête en forme de haricot, haricot vert. Voilà. Voilà. Bon, si ça fonctionne, hein, dessine un carré sur un papier, on te dira. Oui. Tu as une tête allongée, mais comme d'habitude, me dit-il Paris, ok. Ah, ouais, il y a une mise à jour OBS, mais je l'ai pas téléchargée en fait. Voilà. Tu as maigri et grandi. Ouais. Ok. Bon. Bon bah ça va alors. Très très bien. Bon, ça va vous? Comment se passe ce début de semaine? Voilà, moi j'ai pas du tout là, je suis pas du tout en forme. J'ai été malade 15 jours, je suis resté 15 jours au lit, vous le savez, ou quasiment. Mais le simple fait de lancer ce stream et de vous retrouver, ben, du coup, ça me donne un bon coup de boost au moral. Et ça, c'est vraiment super agréable. Voilà, donc merci. Vous êtes un peu mon médicament. Médicament pour le physique, pour le corps et pour l'esprit aussi. Voilà. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de petits messages concernant Noël Le Graët. D'habitude, vous n'êtes pas trop, 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 trop sport. Vous n'êtes pas à 2000% sport quand même sur l'actu sportive ici. Vous intéressez plutôt. Je sais pas, notamment aux questions politiques, je trouve. Mais là, j'ai plein plein de petits messages concernant Le Graët. J'ai l'impression que ça vous amuse cette histoire. C'est l'une de l'équipe, on va en parler, bien sûr. Voilà. Raph me dit, Samuel, pourquoi il n'y a plus de vidéos de questions pour un champion sur YouTube? Aucune idée, je sais pas du tout. Je sais pas, c'est pas moi qui gère ça. Faut écrire à France 3 ou à Fremantle. Hein. Ah bah, je peux pas m'occuper de tout. Hein. Je ne peux pas présenter la matinale de France Info, enregistrer les questions pour un champion, essayer de streamer tous les jours et gérer questions pour un champion sur YouTube. Alors là, ça me passe bien au-dessus de la tête, mon ami. J'ai aucune idée. T'es sûr? Parce que je sais pas, Rayou, il utilise ça pourtant, mon ami Étoile, pour streamer questions pour un champion. Écoute, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Vraiment aucune idée. Je vais gratter quand même. Mais j'ai pas l'info. C'est pas l'info. Bon, qu'est-ce que vous racontez sinon? On va commencer un petit sommaire dans un instant. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans les journaux ce matin, deux, trois choses intéressantes. Je remercie Benny Tooner à l'instant pour le 10e mois d'abonnement et Château Lardon pour le 14e mois d'abonnement. Camille Notagirl pour les Beats et Mats974 pour le 13e mois d'abonnement. Mais j'avais pas vu tous ces subs. Et pourquoi? Pourquoi? Merci beaucoup pour ton Prime également et Cabiais à l'instant. Les habitués sont là, je le vois, pour le 11e mois d'abonnement. Certains se rapprochent du 18e mois d'abonnement, un an et demi d'abonnement. Il serait temps qu'avec Pépin, on se mette au point sur notre badge que vont pouvoir arborer ceux qui sont abonnés depuis 18 mois, puisqu'il n'est pas prêt. Enfin, on est pas loin. On n'est pas loin d'être prêt, mais on n'est pas prêt. Voilà. Pasqueta, j'ai failli te louper. Je pensais que tu streamais pas aujourd'hui. Si, aujourd'hui et demain. Alors, des nouvelles. Remake me dit on approche de la fin grossesse. Très bonne nouvelle. Mme Gonag, un grand merci pour ce 8e mois d'abonnement. Wasp, pour cet abonnement que tu viens d'offrir à la communauté, vous êtes adorable. Et Remake, bientôt la fin de notre petit. De notre petit quoi? De notre bientôt la fin de notre petit, me dit Remake. Mais notre petit quoi? Merci pour l'abonnement. Merci Pauline. Oh, vous êtes adorable. 16e mois. Pauline se rapproche du 18e mois. La cam est déformée. Oui, c'est un peu bizarre. J'ai peut-être un peu bizarre ce matin, on s'en fiche. L'important, c'est que les journaux ne le soient pas. Sir Jenki, oh les habitués. Sir Jenki, merci pour le 14e mois d'abonnement et le très gentil message. Force au modo, je vais vous saluer les amis d'ailleurs. Tu as bien raison de les saluer. Ah, Elia Créa, j'espère que je prononce bien, merci pour le 4e mois d'abonnement. Merci Tartifta du 974, les habitués sont la 14e mois d'abonnement. Le Daps, merci pour l'abonnement que tu viens de prendre également. Remake, merci pour nos 7 mois ensemble. Ok, d'accord, il manquait un petit bout du texte. Moi, il manque une partie de mon visage. Et puis là, toi, il manquait une partie de ton texte. Salut Samuel, je suis à fond dans les études. Parfois, je manque de sommeil. Je sais que tu ne dors pas non plus beaucoup. Est-ce que tu ne t'inquiètes pas des effets sur ta santé? Message très important de Ben Chiro à l'instant. Écoute. Oh, waouh, il y a Gaspard qui est avec nous. Gaspard TV. Salut Gaspard. Gaspard, dont vous savez, le garçon qui fait des streams IRL. Ainsi que sa fiancée, par ailleurs, à l'autre bout de la planète. Je vous ai raid tous les deux, ou plutôt madame. C'était hier, hein, depuis. Alors, je sais. Katmandou, je dis pas de bêtises, c'est ça? Gaspard, qu'on a découvert quand il streamait au beau milieu des océans et des mers et qui est en mode terrestre en ce moment. Gaspard, j'espère que tu vas bien et force à tous les deux, j'adore ce que vous faites. Mais je pense que tu le sais déjà. Ben Chiro nous posait la question du manque de sommeil. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, deux réponses. La première réponse en mode, oui, on est plus fort que tout le monde, on est des machines, on est des Iron Man, rien ne nous fait peur, on va tout casser, le sommeil c'est superflu, etc. Ça, c'est ce qu'on peut se raconter à court et moyen terme. Voilà. Et puis quand on a du plaisir dans ce qu'on fait, ça fonctionne assez bien en vrai. Voilà. À plus long terme, c'est pas l'idée du siècle. Hein, toutes les études scientifiques sont assez convergentes là-dessus. Les gens qui dorment vraiment trop peu, ou avec des sommeils extrêmement décalés, qui travaillent la nuit par exemple et dorment le jour, on sait qu'à très très long terme, c'est pas excellent pour la santé, quoi. Donc ça peut tenir quelques mois, quelques années, mais en vrai c'est pas l'idée du siècle en fait de réduire vraiment énormément le sommeil. Moi j'en suis à ma 7e année de petit matin avec des réveils à 2h du mat, c'est pas à très long terme, c'est pas l'idée du siècle quand même, quoi. Céline Stone écrit, étude éprouvée par moi-même, les gens qui dorment moins vivent plus longtemps. Ah, bon, d'accord. Voilà. Est-ce que j'ai parlé de Le Gret? Pas encore. Le stream a démarré il y a 11 minutes. Non, pas encore. Ah, allez, je vous lis un petit peu parce que ça me met vraiment littéralement de bonne humeur. Je vais remercier Bambou Banga pour le 5e mois d'abonnement, c'est adorable. Merdic Dick, ça c'est du pseudo, merci pour le 6e mois. Clément Polito, merci pour le 10e mois. Cool ton retour et la fin de la crève. J'espère que vous n'êtes pas trop malade, il y a plein de virus en ce moment, quelle saloperie. Ankila, merci pour le 17e mois d'abonnement. Gulaf80 pour le 2e mois. Gus avec plein de U, merci pour le 12e mois d'abonnement, ça nous fait un an tous les deux. Noémie JNK, merci pour le 9e mois. Le Dabs, je t'ai remercié tout à l'heure, je te remercie à nouveau. Et je remercie la Condamine 46, autre habitué, 13e mois d'abonnement. Et Charlotte Jolea pour le 16e mois d'abonnement. Défécateur officiel vient de nous rejoindre, a écrit dans le chat, y en a qui sont chauds et qui ont envie déjà d'en découdre avec Le Gret. Je sais pas ce que... Tout le monde lui tombe dessus, hein, j'ai vu. On va se promener dans le... Tout à l'heure, on ira au-delà du papier de l'équipe. On ira... Est-ce que je l'ai lu d'ailleurs, le papier de l'équipe? Je l'ai mis de côté, mais est-ce que je l'ai lu? On ira voir les réactions, c'est-à-dire tout le monde est unanime pour lui tomber dessus. Hein. J'ai envie de dire, le pauvre, presque. Voilà. Allez, on continue à se dire bonjour. Prenons le temps, on a le temps. On est sur un média qui nous donne le temps, justement. Oh, merci David pour le gentil message, c'est adorable. Et bonne journée à toi. Combien d'heures de sommeil par nuit? 3-4 heures, à peu près, en moyenne. À peu près, je suis à 3-4 heures. Voilà, quand je suis en semaine, quoi, on va dire, le week-end, parfois, je pousse un peu jusqu'à 5-6. Mais là, j'étais en vacances et puis surtout un peu en maladie pendant 15 jours. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dormi. J'ai dormi pour 10 ans, là. Je vais pouvoir de nouveau abuser de ce côté-là. Merci beaucoup, Rimec, pour ton appréciation sur le stream qu'on a fait avec Joe au muséum de Bordeaux avec Jamy Gourmaud. Sache que bientôt, on remet ça dans un musée parisien, de retour à Paris, dans quelques semaines. On est en train de se caler la date. Randy Random, un grand merci pour les 5 abonnements que je vois pour la commu. Vincent Vinel, mon chanteur préféré, merci pour le 7e mois d'abonnement. Locon71, grand merci aussi pour le Prime que tu lâches et ce 14e mois d'abonnement Prime pour Ousmax92 également. Le café du lendemain était parfait. Est-ce à dire que dans le chat, Dev Optique était au café qu'on a pris à Bordeaux le dimanche matin? Tu étais là? C'était cool. On a rencontré une bonne dizaine de viewers IRL à Bordeaux. C'était super sympa. Avec Joe, on s'était mis en terrasse. C'était super cool. Le Brésil synthétiste, on va en parler de ce qui s'est passé au Brésil. Bien sûr, on ira voir un article du Parisien. C'est un journal qui boucle un petit peu après les autres, qui a réussi à consacrer un article à ce qui s'est passé au Brésil. Et on ira voir aussi peut-être les dernières infos sur Internet. Parce que pour le coup, dans la presse écrite ce matin, à part dans le Parisien, il n'y a pas grand-chose. Réforme des retraites, affaire Le Graët, Brésil. On va parler aussi de l'Iran. J'ai vraiment trouvé des choses extrêmement intéressantes ce soir. L'affaire Le Graët, on n'a pas commencé encore. Mais enfin, on se papouille d'abord, on se dit bonjour un petit peu. L'Odyssèse, merci pour le 9e mois d'abonnement. Est-ce que je pense refaire des lives dans des musées? Il y en a un qui est calé, il y en a un qui est calé. Là, c'est juste une histoire de date, fin janvier, début février. Et un très très beau musée. Avec notamment une très belle exposition temporaire. Je pense qu'en images... Le prochain stream dans un musée qu'on est en train de préparer avec Joe, avec un invité un peu exceptionnel comme Jamy Gourmaud à Bordeaux par exemple, en termes d'image, je pense que c'est ce qu'on vous aura proposé de plus beau jusqu'à aujourd'hui. Franchement, c'est quelque chose de magnifique. Il y a une exposition temporaire là qui est en image qui est juste incroyable. On a vraiment hâte de vous la faire vivre. Anzu Studio, merci pour le 13e mois d'abonnement. Et Broubou06, merci pour les beats. C'est adorable. Salut Alexandra, j'espère que tu vas bien. Non, rien de calé encore avec casquette verte, puisque le sport, est, pour l'instant, c'est un petit peu mis au second plan pour moi, par manque de temps. Donc, aller me tuer les jambes avec un trailer du niveau de casquette verte, ça n'est pas d'actualité pour l'instant, même si le jour où je retrouve un petit peu de temps dans ma vie et du sport, ce sera reparti casquette verte, qui est un coureur incroyable, un trailer, qui est streamer par ailleurs, que la plupart d'entre vous connaissent, je pense. Après le Capitole et le Brésil, peut-on s'attendre à la même chose en France, me demande Modonel. Très bonne question qu'on évoquera tout à l'heure, j'espère bien que non, par exemple. Globe, Wayfair, je ne réponds pas à ta question, mais je... Enfin, je ne reprends pas ta question, je ne la reformule pas, mais je dis... Oui. Voilà, toi, tu as deviné. Lancastre 76, merci pour le 3e mois d'abonnement, c'est adorable. Et casquette jaune, ça n'est pas prévu non plus. Allez, je vous lis encore un petit peu et je vous fais un petit sommaire. Monsieur B, j'espère que tu vas bien et merci pour le 14e mois d'abonnement. Ah, ben il y a un train de la hype de folie là. Avec Jamy, le musée. Alors à Bordeaux, on était avec Jamy. Le prochain stream, c'est encore avec un invité exceptionnel. Mais ce ne sera pas Jamy, ce sera quelqu'un d'autre. On varie les plaisirs. Même si j'ai très envie de refaire un truc avec Jamy Gourmaud parce que ça a été un kiff de travailler avec lui. C'est quelqu'un de professionnellement et surtout d'humainement qui est assez exceptionnel. De même que sa compagne, son amoureuse d'ailleurs, avec qui il travaille un petit peu, qui est quelqu'un de formidable aussi. Allez, je lis encore 3 messages et je vous fais un petit sommaire, hein, histoire de parler un petit peu d'actualité quand même. Totof, merci pour le petit message qui est adorable, pour les beats, et Mi Ludman, merci pour le 14e mois d'abonnement. Allez, encore un message et on y va. Ah, c'est marrant, vous êtes plusieurs. Joe, t'es toujours là, vous êtes plusieurs à me dire que la caméra est un peu plus pixelisée que d'habitude. Écoutez, je sais pas si c'est lié à OBS, mais en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des trucs bizarres quand j'ai lancé OBS. Là, j'ai dû un peu tout régler, refaire tous mes cadres en urgence. C'est un peu étrange, voilà. Bon, après, c'est pas trop grave. On peut éventuellement Essayez de la désactiver, de la réactiver, vous allez voir, je suis pas sûr que ça change grand chose. Voilà. Tchac. Voilà, je pense pas que ça change grand chose. Ouais, la mise, ouais, y a eu mise à jour d'OBS, mais je l'ai pas téléchargé, moi, la mise à jour d'OBS, donc enfin, bon, on verra bien. Quel EHPAD conseilles-tu pour Monsieur Le Gretz, me demande Morph. Morfort, je prononce bien Mourfort. Alors, je suis nul pour la prononciation des pseudos, j'ai tellement honte. Merci Poum pour le 15e mois d'abonnement. Ça en fait des cafés, merci à toi. Winissam, j'avais pas vu, merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Ça, c'est un grand merci à tous, vous êtes formidables. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire, les amis? Mille merci, hein, c'est un bonheur. C'est fou, hein, parce que en ce moment, je suis un peu fatigué, je le cache pas, c'est l'hiver. Les 15 jours de maladie, là, la grippe et la bronchite enchaînée m'ont vraiment épuisé. Je sais pas comment j'ai fait, je me suis un peu foulé la main gauche ce week-end. Je sais pas ce que j'ai fait un mauvais mouvement, j'ai super mal à la main. Bon, la santé est pas au top, mais et vraiment, ce matin, j'étais un petit peu à l'arrache, quoi, un peu à la rue. Et le simple fait de lancer ce stream et de vous retrouver, bah, subitement, j'ai l'impression que tout se met à niveau et tout va mieux, quoi. Donc, c'est vraiment super. Agréable, c'est incroyable. Prêt pour le sommet, on y va ? Max Kinder, merci pour le 16e mois d'abonnement. Sir Shorao, merci pour le 11e mois d'abonnement. Les habitués sont là. Prêt ? On y go ? Oh, c'est trop cool de vous retrouver. En tout cas, Samuel, merci beaucoup d'avoir streamé pendant l'été. Ouais, oui, ça date. Tu m'as accompagné quand j'allais à la salle quasiment quotidiennement et j'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Nico, t'as perdu 10 kilos en 2 mois? Mais c'est énorme! 10 kilos en 2 mois? Moi qui étais en train de me préparer à l'idée de ne pas streamer au mois de juillet et de consacrer... Oui, mon Joe? Ouais, je te vois. Je vois, il y a Joe qui veut poser une question dans le chat. Joe, t'es VIP, hein, t'es prioritaire, mon ami. Qu'est-ce que tu veux demander? Moi qui me préparais à l'idée de ne pas streamer en juillet, de me consacrer entièrement à la famille, si j'apprends que grâce à moi... vous êtes en pleine forme l'été et que vous perdez du poids. Line-up de vendredi leak. Ouais. C'est quoi ta question, Joe? Oui, j'ai un peu leak, mais je me suis gouré. j'ai leak la line-up, on va dire la programmation en bon français de l'hebdo Étienne de vendredi. Hier, mais je me suis trompé. Je crois, attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Je me suis gouré entre deux lignes, en fait. Je me suis tellement gouré que j'ai déjà préparé le visuel et je me suis trompé dans le visuel. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, nos 3 invités de vendredi, dans l'hebdo Étienne, okay, ce sera la numéro 17 pour revenir sur l'actualité de la semaine, ce sera Marie Palot, ça je me suis pas trompé, Monsieur Poulpe, ça je me suis pas trompé, et Jean Massier, hein, notre ami Jean Massier. Voilà. Et alors que j'ai annoncé hier en plein stream, en montrant même le visuel parce que je me suis gouré sur le visuel, Pépé Garcia, l'ami Pépé Garcia, qui en fait invité la semaine d'après, tant qu'à faire je balance, hein, avec Dwagby et Jiraya. Pff, encore une line-up de fou. Voilà. Donc j'ai 2 line-up de fou à venir, vendredi qui vient et le vendredi d'après. Vous avez premier vendredi Marie Palot, Monsieur Poulpe, Jean Massier. Et vendredi suivant, on sera le 20 janvier cette fois, Pépé Garcia, Dwagby et Jiraya. C'est énorme. Voilà. Et en fait, j'ai mélangé les 2 émissions. Et dimanche, j'ai annoncé que Pépé Garcia serait avec nous vendredi. Et vous savez, ce qui m'a mis dedans, c'est que Pépé m'a envoyé un message en fait ce week-end en me disant « Ouais, Sam, ça va être super de faire l'émission ensemble parce qu'en plus, je suis à Las Vegas pour le CES de Las Vegas avec toutes les innovations technologiques. Là, je vais avoir plein de trucs à raconter. » Donc, je me suis dit « Ok, Pépé Garcia revient de Las Vegas. Let's go. » Et on va en parler vendredi. Et en fait, pas du tout. C'est le vendredi d'après. Je vais quand même vérifier avec lui parce que du coup, je me demande si même lui ne pense pas venir vendredi. Je vais essayer de tirer ça au clair, quoi. Voilà. Pourquoi je bois dans une tasse vide ? Pas de PP semaine pro. Ouais, c'est la semaine d'après. Voilà, il faut que j'envoie un message à notre ami Pépé Garcia pour être sûr qu'il se trompe pas de date. J'ai vérifié si je lui ai envoyé la bonne date. Pourtant, pourquoi Motherfucker me dit que Jiraya est dans la sauce Twitter ce matin? Qu'est-ce qui se passe avec l'ami Jira? Jiraya, sauce Twitter de quoi? Je suis pas au courant. Il est pas du genre à se retrouver dans des sauces, Jira, c'est le mec le plus gentil du monde. C'est moi le polémiste qui me retrouve dans les sauces. De zéro sauce avec Jira. Oh, c'est méchant. Ça fait deux pépés sur le plateau. Garcia et Samuel, me dit Nico. Elle est bonne, celle-là. Déficateur me dit, il y a toujours des sauces sur Twitter. Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Allez, on est parti pour le sommaire. Je suis tellement bavard. C'est de votre faute, c'est parce que vous êtes trop sympa. Groulmage, merci pour le 10e mois d'abonnement. Mister Gravelax, merci pour le 10e mois d'abonnement. Keninours, merci pour le 11e mois d'abonnement. The Voyageur, merci pour les beats. Jaco, SGC, merci pour le 4e mois d'abonnement. Jérôme78, merci pour le 5e mois d'abonnement. Davmars, merci pour le 8e mois d'abonnement. Jabe2306, merci pour le 4e mois d'abonnement. Wow, 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 wow. Et vous êtes formidables. Et merci pour tous les messages qui vont avec vos subs. Je pense que ta caméra est niquée, Samuel. Mais arrêtez avec ça, c'est juste, non, c'est OBS qui nous joue de ses tours. C'est pas très très grave, ça je suis sûr que ce sera réglé d'ici demain. C'est marrant que Joe nous fasse pas un retour là-dessus, l'ami Joe, sur la caméra qui est un peu zarbi. Caméra, OBS, c'est pas très très clair. Oh, la technologie. Du moment qu'on a le son, qu'on a un petit peu d'image, c'est déjà pas mal. Merci Switch Off pour le 16e mois d'abonnement, et c'est parti pour le sommaire. Est-ce que la caméra zénitale fonctionne d'abord? Merci Nelly pour ce 2e mois d'abonnement. Caméra zénitale, vous connaissez? Hop, cette caméra qui est au-dessus ici, coucou, voilà, mes mains ont la parole. Caméra à mon zénith.
Ah.
Voilà, donc zénithal avec un Z, hein, faut pas se tromper, qui nous permet de vous montrer. De vous montrer quoi? Eh bien, la presse papier, puisque le week-end, souvent, je la télécharge sur mon iPad, mais en semaine, comme je la lis le matin sur France Info, à partir de 3h du matin, ben, je la ramène, histoire que ces journaux papier, quel kiff en plus, est une deuxième vie. Prêt pour le petit... je ferai bien un reload de la cam pour être certain qu'elle est bien en 1080. Rien compris. Et je vérifie bien que ta cam soit bien en auto. Bon, on fera ça plus tard. Là, je suis trop fatigué. Là, je suis 2 du matin, je suis plus étanche. Donc là, on me voit, c'est déjà ça. Prêt pour le sommaire? On y va? Vous me donnez votre petit go 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 go? J'attends votre go 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 go. Go 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 pour le sommaire. C'est parti, merci, c'est parti pour le sommaire. Et merci Litchi Sheepdog pour ce 16e mois d'abonnement. Alors, qu'est-ce que j'ai ce matin pour vous? Eh bien, on a déjà beaucoup parlé hier et ça ne me dérange pas parce que ça me semble essentiel. On va parler de la réforme des retraites. Pourquoi? Parce que, eh bien, demain, enfin, après des mois d'attente, le gouvernement, via la Première ministre Elisabeth Borne, va enfin préciser les contours de la réforme des retraites souhaitée si fortement, non pas par les Français, les sondages nous disent que les Français n'en veulent pas, mais par le président Macron. Donc, annonce d'Elisabeth Borne là-dessus. Elisabeth Borne qui sera l'invitée du JT de 20h de France 2 demain soir, qui sera aussi l'invitée de France Info, la chaîne sur laquelle j'ai le bonheur de travailler à partir de 20h30. Demain soir, on est sur le canal 27. Et n'oubliez pas que demain soir, à partir de 19h, je vous donne la parole sur cette chaîne Twitch. La parole, Étienne. Hein, je ferai un petit... Merci MMG. Merci beaucoup pour ton message sur le Grette. Je ferai un petit tweet dans la journée de mardi là-dessus. Je vous donne la parole demain soir sur cette chaîne Twitch à partir de 19h, 19h, 22h. La parole est tienne. Vous m'envoyez un petit numéro de téléphone en DM sur Twitter avec ce que vous avez envie de raconter sur la réforme des retraites. Je vous rappelle et on en parle tranquillement pendant 3 heures. Ok ? Ça, c'est demain. Cette réforme des retraites... la réforme des retraites est un marronnier de chaque année. Non, pas tellement, Wendigo. Non, pas tellement. Non, un marronnier, c'est un truc qui revient chaque année. La réforme des retraites, il y en a eu quelques-unes déjà, mais il n'y en a pas une tous les ans. Ou alors, ta connaissance de l'actualité politique est un petit peu floue quand même. Hein. C'est un marronnier, c'est pas ça. C'est pas tous les ans la réforme des retraites. Pas encore. Donc, on attend les précisions, mais c'est à l'une de tout. Vos journaux, les échos, retraite, les ambitions d'une réforme. Je vous rappelle que ce qu'on entend beaucoup depuis quelques jours, c'est que plutôt qu'un report de l'âge légal à 65 ans, on a 62 aujourd'hui, hein, 3 ans c'est énorme, ce serait plutôt un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, mais en même temps avec une accélération de la réforme dite Touraine, c'est-à-dire de l'augmentation du nombre de trimestres à cotiser pour avoir une retraite à taux plein. Donc voilà, bon, globalement, on va avoir travaillé plus de toute façon. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans les tuyaux, hein, c'est ce qui se susurre en coulisses. On aura la confirmation demain. Les ambitions d'une réforme, c'est la Une des Échos. La Croix, les enjeux de la réforme. Ici, le gouvernement présente demain sa réforme des retraites. Hier, le Parisien a été extrêmement pédagogique, extrêmement didactique par rapport à ça. Nous expliquait un petit peu, de façon assez claire, tous les enjeux. Qu'est-ce que c'est que cette réforme des retraites, etc. C'est La Croix qui fait ce boulot ce matin, donc on prendra le temps de lire La Croix. Pour ceux qui sont un peu dans le flou sur cette actualité qui est assez complexe, eh bien, je trouve que c'est intéressant. Regardez comment La Croix nous traite ça. Cette réforme, est-ce qu'elle est nécessaire? Très bonne question. Pourquoi jouer sur l'âge, hein, puisqu'il y a cette question de la pérennité de notre système de retraite par répartition pourrait être réglée autrement, on le verra d'ailleurs, par la hausse des cotisations, par exemple, par la baisse des pensions, que sais-je. Le gouvernement a choisi de jouer sur l'âge. Pourquoi? Question posée par La Croix. Âge légal, durée de cotisation, de quoi parle-t-on? Très pédagogique, extrêmement clair. 4. Est-ce que les régimes spéciaux sont concernés? 5. La réforme est-elle socialement injuste? 6. À quel âge part-on dans les autres pays? Je dis merci à La Croix pour ce dossier. On peut ne pas parler de politique, ne dit Rosa. Non, c'est impossible. La politique est partout. La politique est partout, y compris dans le sport, par exemple, n'en déplaise à notre président Macron, qui a dit un peu n'importe quoi là-dessus il y a quelques temps. La politique, tout est politique. Tout est politique. La politique, c'est quoi? La politique, c'est comment on vit ensemble. C'est comment on s'organise en tant que société. Hein, on est X dizaines de millions dans un pays donné. Évidemment, on est d'accord sur rien, sinon c'est pas drôle. Alors comment toutes ces individualités arrivent à vivre ensemble malgré tout? Comment on s'organise? Où est-ce qu'on met l'accent? Qu'est-ce qu'on collecte comme argent? Où on va le prendre? Comment on le dépense? Tout est politique, bien sûr. Donc ne pas parler de politique, c'est parler... la météo, même pas. Même la météo, c'est politique, puisque la météo, c'est le climat, quelque part. Et le climat, vous le savez, c'est éminemment politique. Donc, évidemment, qu'on parle de politique. Je vous le disais un instant, le gouvernement a donc choisi de faire travailler les Français plus longtemps pour sauver, selon le gouvernement, notre système de retraite par répartition qui serait en danger. Sauf que d'autres estiment qu'il y a d'autres moyens, il y aurait d'autres moyens de sauver ce système de retraite à supposer qu'il soit en danger. C'est ce que dit Libération. Regardez, hop, retraite, une autre réforme est possible. Je vous donne quelques pistes rapidement. Améliorer l'emploi des seniors, mettre à contribution les entreprises, payer à égalité femmes et hommes, inventaire des alternatives au report de l'âge de départ à la retraite, défendu notamment par les syndicats, et rester lettre morte puisque le gouvernement n'a pas voulu en entendre parler. Voilà, on lira ce dossier dans Libération. En gros, dans chaque quotidien, puisqu'il n'y a quasiment que des unes sur les retraites, ce matin, j'essaie de vous choisir des angles un petit peu différents pour avoir différents regards sur cette question. Par exemple, l'Humanité estime que le fait que le gouvernement n'ait pas écouté les syndicats, ici, sur d'autres pistes de réforme, eh bien, c'est gravissime, d'autant que ça s'inscrit dans 5 ans, dit l'Humanité en tout cas, de guerre aux syndicats, des ordonnances Macron en 2017 à la contre-réforme des retraites dont les contours seront annoncés demain. Le président et ses gouvernements ont méprisé, estime l'Humanité, les organisations de salariés et les corps intermédiaires. Voilà, on lira ça. L'opinion est intéressante aussi. Alors là, je fais une petite pause, j'adore, parce que je vois plein de messages sur les retraites, je vais vous lire un petit peu. Delphine, merci pour le 12e mois d'abonnement, c'est adorable. Almond Juice, merci pour le 12e mois d'abonnement et bonne année à toi aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui empêche le prochain gouvernement élu d'annuler cette réforme, vu que tout le monde semble la détester? C'est sûrement ce qui va se passer, non, me dit Physique. Oui. Rien n'empêche un prochain président, une prochaine présidente de la République de revenir sur cette réforme. Après, comme c'est un truc un peu douloureux, un truc qui va être compliqué à faire passer, qui fâche un petit peu tout le monde, qui va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, moi je me dis, connaissant les politiques, que la prochaine majorité, à supposer qu'elle soit différente de celle-ci d'ailleurs, puisqu'on pourrait imaginer que le successeur du président Macron dans 4 ans soit quelqu'un qui soit sur la même ligne, mais imaginons que ce soit quelqu'un d'autre, avec même un quelqu'un d'autre qui aujourd'hui critiquerait cette réforme, eh bien peut-être que dans 4-5 ans, il serait très heureux de la laisser parce que justement cette réforme aurait rapporté de l'argent à l'État et qu'il est plus facile de le dépenser que d'en faire rentrer, quoi. Comme le dit Clément Polito, il le dit plus clairement d'ailleurs que moi à l'instant, ils gueulent dessus, mais ils sont bien contents que quelqu'un d'autre s'en occupe plutôt qu'eux. Voilà. Bon, maintenant on est dans la politique fiction. Voilà. Comme le dit Zario, le prochain président profitera juste des bénéfices de cette réforme. Voilà, c'est un petit peu l'idée, quoi. À voir, à voir, à voir, à voir. Donc, ce qui m'intéresse dans l'opinion, c'est ça. Macron et les retraites, les ressorts d'une idée fixe. C'est une question qui m'a été posée ce week-end par certains dans le chat. C'est quand on voit comment, à quel point cette réforme est perçue négativement par les Français. C'est-à-dire quand on regarde les sondages, 60, 70, 75% des Français ne veulent pas de cette réforme. Alors, la question m'a été posée hier, mais pourquoi le président la souhaite ? Bon, pour plein de raisons différentes, notamment pour... c'est dans l'opinion, justement. Ah, j'en dis pas plus. Pourquoi le président Macron veut à ce point cette réforme que les Français ne veulent pas ? Eh bien, on a la réponse dans l'opinion. En tout cas, on a des pistes de réflexion qui sont intéressantes. Hop ! Merci, Inc. 910, pour ce sixième mois d'abonnement. Merci. Alors, je vous rassure, pour ceux qui n'en peuvent plus déjà de la réforme des retraites, sachant qu'on va en bouffer pendant un petit moment, parce que demain, c'est la présentation du texte du projet de loi, mais après, ça va arriver à l'Assemblée, et puis ça va arriver au Sénat, et puis ça va peut-être être amendé, ça va être disputé, etc. Est-ce qu'il y aura une majorité pour voter ce texte ? Est-ce qu'il y aura du 49-3 ? On n'a pas fini d'en parler. Mais heureusement, il n'y a pas que ça dans l'actualité. Et je dis merci au Figaro et aux autres journaux qui continuent à nous parler de l'Iran. Voilà. Parce que les manifestations se poursuivent en Iran, la colère populaire, les manifestations pour demander plus de liberté se poursuivent en Iran, et il faut continuer à en parler. Bien sûr, et parfois quand une actualité dure comme ça, elle passe un petit peu au second plan et on oublie. Et c'est gravissime, bien sûr, ce qui se passe en Iran. Donc je remercie la presse de continuer à en parler, notamment le Figaro ce matin. Iran, les mollahs étouffent la contestation. Le problème, c'est que les nouvelles de cette mobilisation populaire démocratique en Iran ne sont pas très positives. Je m'explique. Après des mois de répression, la révolte s'essouffle en Iran. Estime en tout cas le Figaro, avec un pouvoir qui laisse sciemment, volontairement se dégrader la situation économique du pays pour affaiblir la population. Les nouvelles venant du mouvement de révolte populaire en Iran ne sont pas très bonnes, à en croire en tout cas l'analyse du Figaro. Voilà, moi je trouve ça extrêmement inquiétant, on lira ça. Merci au Figaro pour ce dossier en tout cas. Le Parisien est sur toute autre chose, à mon avis le Parisien se réserve pour demain, parce que la une du Parisien demain sera sûrement consacrée à la réforme des retraites. On verra, je suis toujours dans le sommaire, hein. Je vais un petit peu vite, après on va prendre tout le temps. Confidence d'ados étrangers délinquants. Qu'est-ce que tu sais que cette une un peu étonnante, qui est un petit peu surprenante, c'est un dossier, c'est une enquête du Parisien, c'est pas vraiment c'est un peu hors actu. Je lis, après la chute de leur réseau de jeunes Marocains qui dépouillaient, les touristes parisiens ont raconté aux policiers leur vie quotidienne entre addiction et vol à la tire. Bon, ça m'a un peu surpris, voilà. Mais on lira cette enquête. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez. L'impensable histoire des enfants des rues qui dépouillent les touristes lors du démantèlement d'un réseau d'Algériens, c'était des adultes, qui a poussé des mineurs étrangers, essentiellement de jeunes Marocains, a multiplié les vols dans Paris. Des policiers ont identifié 17 enfants, 17 mineurs, tombés entre les mains de ce réseau. 5 d'entre eux se sont confiés sans phare. Ce que nous dit le Parisien, c'est que ces jeunes sont à la fois de jeunes délinquants qui ont commis des méfaits, des délits, notamment des vols et des agressions, mais aussi, hein, alors je sais que ça va peut-être en surprendre, voire en énerver certains, parce que je voyais quelqu'un dans le chat qui disait « ça y est, on va encore leur trouver des excuses, Villecroix, je t'ai vu ». Ce sont aussi des victimes, ce sont des victimes de trafiquants. Voilà, donc on va lire ça dans le Parisien. Et dans le Parisien, on va lire d'autres choses aussi. On va lire un article sur ce qui s'est passé au Brésil ces dernières heures avec les pro-Bolsonaro, les partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, au Brésil, qui ont envahi les lieux de pouvoir. Hein, le Parisien est le seul quotidien papier à en avoir parlé ce matin, parce que c'est un des journaux qui va le plus tard à l'imprimerie la veille au soir. Des partisans de l'ancien président, battus de justesse en octobre, ont donc pris d'assaut ce dimanche, c'était hier, plusieurs bâtiments officiels de Brasilia, et ce 2 ans après l'assaut du Capitole à Washington. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis. Donc on lira cet article, puis on ira voir les dernières infos sur Internet pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Alors, quand je dis Paul Stangen, ce sont les seuls à en parler. C'est une question de bouclage. C'est-à-dire, le bouclage, c'est le moment où le journal papier doit aller à l'imprimerie. Parce qu'à un moment, il faut bien l'imprimer. Donc, à un moment, on arrête le journal et il part à l'imprimerie. Alors, c'est des délais qui sont très très longs, bien sûr, parce qu'il faut composer le journal, il faut l'imprimer, il faut ensuite le distribuer. Ça prend du temps, bien sûr. Donc, il y a une heure limite de bouclage. Et selon les journaux, c'est pas la même. Selon la façon dont ils fonctionnent, les contrats qu'ils ont avec les imprimeries, leur mode de distribution, etc. Et le Parisien est l'un des journaux qui boucle le plus tard, ce qui lui permet d'intégrer des infos qui tombent parfois plus tardivement, et notamment en soirée, avec le décalage horaire qu'il peut y avoir sur certains continents par rapport à nous. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Brésil dans les autres journaux papier ce matin. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver sûrement des articles sur Libération.fr, Lefigaro.fr, etc. Mais en version papier, uniquement dans Le Parisien. Ça ne veut pas dire que les autres journaux n'ont pas parlé, mais du coup sur Internet. Et puis, dans Le Parisien aussi, on lira ce papier sur ce CES de Las Vegas, hein, le grand salon de l'électronique, qui a encore mis en lumière, écrit Le Parisien, des inventions qui auront un vrai impact sur notre quotidien dans un avenir proche, des innovations pour vivre mieux. Il y a des choses un peu gadgets, il y a des choses qui semblent un petit peu plus importantes. C'est quelque chose dont on parlera avec Pépé Garcia, qui est actuellement à Las Vegas, si je ne dis pas de bêtises. Pépé Garcia qui sera notre invité dans deux semaines dans l'Hebdo Étienne. Voilà, je vous ai mis un petit article là-dessus. Et on terminera, on peut commencer d'ailleurs avec ça, c'est vous qui allez choisir, vous allez me dire, avec la polémique Le Graët. Voilà. Vous savez, le président de la Fédération française de football qui a eu des mots extrêmement, comment les qualifier, violents. Comment vous les qualifiez? Comment qualifier les mots du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, vis-à-vis de Zidane, hein? Méprisant, me dit défécateur. Agressif, me dit la Carlite. Irrespectueux, inattendu, c'est parti. Scandaleux. Il s'est excusé, me dit Houblon Nippon. Oui, oui, il vient de s'excuser. Mais c'est peut-être un petit peu trop tard. Certains disent que c'est peut-être sa dernière boulette. Honteux, sénile, je lis le chat. Une honte. Not so great. Excellent, pas mal, Shadowmans. Le Graët d'émission, c'est-à-dire certains ont lancé le hashtag. Bonjour, je dirais qu'il est bon pour la retraite. Le mot retraite, je le vois beaucoup dans le chat. Qu'a dit Le Graët? Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, pour ceux qui n'ont pas l'info, a tenu des propos méprisants, écrit l'équipe envers Zinedine Zidane. Un nouveau dérapage qui a fait réagir Kylian Mbappé, notamment, ainsi que la ministre des Sports, qui a exigé des excuses de Le Graët à Zidane. Est-ce que ça ferait mal au cœur qu'il, Zidane, aille au Brésil? Moi, j'en ai rien à secouer, a déclaré Le Graët. Il peut aller où il veut. Est-ce que Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, dit Le Graët. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. En tout cas, il y a une espèce d'unanimité dans la condamnation de ses propos. Je m'aperçois, alors, mes petits codes de lecturier, le matin j'essaie de lire tous les journaux en intégralité avant de commencer ma matinale de France Info, puis de temps en temps je suis un petit peu à la bourre et je me mets des petits signes cabalistiques sur les journaux. Et là par exemple la petite croix ici, ça veut dire que je me suis mis l'équipe de le côté pour le lire un peu plus longuement dans la matinée, et puis j'ai oublié. Voilà. Donc on feuilletera un petit peu l'équipe. Regardez qui se demande si c'est pas la sortie de trop pour Le Graët. Je pense qu'on lira l'édito de Vincent Duluc, qui à mon avis doit être plutôt bien troussé. Voilà. Voilà pour le sommaire. Donc pour ceux qui ne peuvent pas rester 2h, 3h avec nous, vous avez l'essentiel de l'actualité qui est dans vos journaux ce matin, et puis après on va prendre le temps de lire ces papiers et d'en parler. Ça vous va? Elinim, bonne journée de cours à toi, des bisous aussi. Balek Mec 92, c'est quoi l'histoire à la base? Pourquoi Zidane irait au Brésil? Bah notamment parce qu'il n'a pas eu la tête de la sélection, puisque l'actuel sélectionneur a été maintenu en place. Hein, c'est ça l'histoire. Alors que Zidane rêve d'entraîner les Bleus. Hein, voilà. Et pourquoi le Brésil? Parce que la sélection brésilienne lui fait de l'œil, comme dit le pilier de barre, de l'œil et du coude même, pour qu'il devienne le sélectionneur national de la Seleção. Voilà, puisque Didier Deschamps a été renouvelé en 2026, nous dit MMG7F exactement. Exactement. On s'en fiche un peu du foot, non? Oh, bon, c'est même plus du football, là. C'est Dallas, là. C'est plus du foot. Je remercie les modérateurs. Oh, vous êtes tellement nombreux. Merci beaucoup. Merci Anonyme 31, Broubrou 06, Captain McBernick, Gandalf Listari, MMG7F, Petit Dragon Vert de Rage, l'ami Nightbot et l'ami Joe qui est avec nous aussi. Artpixel, merci pour le 8e mois d'abonnement. Encore un mois et ça nous fait un bébé. Bon, on y va ? On lit tout ça ? Ça vous va ? Alors, la question c'est, est-ce qu'on commence par le Gret ? Ou est-ce qu'on commence par la réforme des retraites ? C'est vous qui décidez. Nouveau sondage, let's go. On commence par l'affaire Le Gret. Ça, on ira voir les excuses, puisqu'il manifestement il a fait des excuses ce matin. On sent qu'il veut un peu sauver son poste. C'est peut-être un petit peu trop tard. L'affaire Le Gret, ou est-ce qu'on commence par la réforme des retraites ? Voilà. Je lance le sondage dans une seconde. Je ne sais pas. C'est parti. Je suis content de vous retrouver, vous m'avez manqué. Alors, voilà le résultat. C'est vous qui décidez. Le... Oh bah, salut ma grosse, comment vas-tu? Le Gret, mais pas, selon... pas certainement The Great. Excellent, excellent. Excellent. Let's go les retraités, comme ça on termine sur du plus léger, me dit Raccoon. Je suis pas sûr que Le Gret soit léger, 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 moi. Alors ça donne quoi? La... Ouh là là là, c'est Le Gret, hein, c'est Le Gret, hein. Regardez, regardez, regardez ce que donne le sondage. C'est Le Gret, c'est Le Gret. C'est Le Gret. La démocratie ne cesse de me décevoir, me dit Karok. Oh, il regrette ses propos, Le Gret. Oh là là, vous êtes John Guy. Vous êtes en forme, vous êtes en forme. Il regrette ses propos. Vous êtes tellement en forme. Il a quel âge, Le Gret? Il est âgé. Il est âgé. J'ai entendu. Alors, j'ai entendu quelque chose ce matin. Je vais vérifier. J'ai entendu 81 ans, mais ça me semble impossible. On ne peut pas avoir 81 ans, quand même. Et la retraite, c'est pour 81 ans. 81 ans. Quel âge il a? On va aller vérifier. Tout le monde me dit 81 ans. Il a 81 ans? Il est né en 41. Ça fait ça? Oh, il a 81 ans. Il a 81 ans. Il a bah oui, comme moi. Quasiment. 80, il a 81 ans. Il a 81 ans. Oh, je vous sens. Ah, je vois arriver les commentaires. Je vois arriver les commentaires. Il est temps qu'il dégage. Il est temps qu'il prenne la retraite. Vous êtes tellement méchant. D'ailleurs, vous voulez qu'on commence par ça? Ok, bon, bah c'est parti. Regardez le résultat du sondage. Il reste 10 secondes. On commence par l'affaire Le Gret, 61%. Réforme des retraites, 32%. Victoire KO par KO de l'affaire Le Gret qui s'impose sur la réforme des retraites. Bon, en même temps, l'affaire Le Gret, c'est aujourd'hui. Hein. La réforme des retraites, on aura l'occasion d'en parler pendant plusieurs semaines encore. Ok, on fait ça? Oh, défécateur qui est méchant aussi. Disons que ça se recoupe un petit peu le sujet de la retraite avec Le Gret. Vous êtes tellement, tellement en forme. Ok, on va commencer par l'affaire Le Gret alors. Ok. Vous êtes très en forme, hein. Darknoise, merci pour le Prime. Despotique, merci pour le 17e mois d'abonnement. Ça en fait quand même, hein. C'est adorable. Sandrine 3000, merci pour le 16e mois d'abonnement et pour le très gentil message. Artpixel, je te remercie, je le refais. Voilà. Le Gret risque de prendre la porte. Vous êtes tellement fort, vous êtes tellement fort, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est le poil à gratter du foot français. Mais arrêtez, arrêtez avec les blagues. C'est quoi ça? Mais vous êtes incroyable. Oh, imaginez Noël Le Gret en train de regarder ce stream. Tatouf Métouf, ça fait longtemps que j'avais pas vu ton pseudo. J'espère que tu vas bien. Merci pour le 17e mois d'abonnement. Tatouf Métouf 78 pour être tout à fait précis. On y va? Il s'appelle Noël et il est né le 25 décembre. C'est vrai, ça, il est né le 25. Il est né le 25 décembre, il s'appelle Noël. C'est incroyable. La vie est très étrange. Roar, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 9e mois d'abonnement. Bonne année. Bon, bah on commence avec ça alors. Let's go. Allez, c'est parti. Allez, l'affaire Le Gret. Inacceptable. Hein, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'opinion... l'équipe a choisi son opinion, a choisi sa position. On n'est pas dans la langue de bois, là. Les propos de Le Gret pour le grand quotidien sportif, c'est inacceptable. Alors, on rappelle les mots de Le Gret, qui était interrogé... dans une émission, alors on va donner le cadre, c'était Le Gret Bartoli. Hop, je vais vous donner le cadre. Précisément, voilà, c'était sur RMC, la radio RMC, voilà. dans l'émission Bartoli Time, qui est animé, si je ne dis pas de bêtises, par l'ancienne championne de tennis, c'est ça, hein, Marion Bartoli. Mais je crois qu'au moment où il parle, il est interrogé par un homme qui est peut-être Jean-Christophe Drouet, puisque dans l'image que j'ai vue. Bah d'ailleurs, est-ce qu'on peut trouver ça d'ailleurs? Peut-être trouver. Ça se trouve, ça peut-être, non? Peut-être voir. Allons voir la source. Noël Le Graët, Bartoli. Peut-être j'ai trouvé la vidéo. Ah. Il est interrogé par les deux. Ok, d'accord. Alors, l'interview complète. Peut-être pas voir l'interview complète quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé là? C'est parti, je l'ai.
Est-ce que...
Ah oui, interrogé par les deux, vous avez raison. C'est ici. Allez, go.
Nous, on a entendu beaucoup le nom de Zidane avec le Brésil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est... Oui, qui vous plaît ou pas?
Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas. Mais non, mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Moi, je ne l'ai pas... Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier.
Didier
Deschamps. Donc ça correspond à rien. Mais vous aussi, les journalistes, pas vous, parce que votre émission est plutôt sympathique et agréable. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire.
Bon, un petit tacle pour les journalistes, ça ne mange pas de pain, mais ça, c'est pas grave. Il a tout à fait le droit de critiquer notre profession. Il dit qu'on est toujours à la recherche d'informations, même quand elles ne sont pas justifiées. Ça peut s'entendre, il n'y a pas de souci. C'est la suite qui est problématique, je crois.
Et surtout, il préfère écrire du mal que du bien. Donc, très franchement, je ne suis jamais surpris par ceux qui condamnent à l'avance ou ceux qui ont des idées un peu farfelues.
Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non?
Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé.
À moi? Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut.
J'en ai rien à secouer, répond Le Graët, à la perspective de voir Zidane partir entraîner la Seleção, la sélection brésilienne. J'en ai rien à secouer. Ce sont les termes qui sont assez peu policés quand même, écoutons.
Mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé.
À moi? Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut.
J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut.
Non, mais en tant que Français, non, mais en tant que
alors,
Français.
Vous bon, voulez le mettre où alors?
Non, mais dans un club, partir sur une autre sélection, non, ça vous ferait pas mal au cœur.
Quelqu'un me dit, c'est son avis, il a bien le droit de l'exprimer. Le mec, il est président de la Fédération Française de Football. Il parle de Zidane, qui est une légende du football français. C'est-à-dire qu'à un moment, il est tenu à un minimum de responsabilité dans ses propos. On n'est pas au café avec les potes, quoi. Hein, il est à la radio, dans un exercice de public, de représentation, il est président de la Fédération Française de Football. Quelqu'un me dit, il a bien le droit d'exprimer son opinion. Déjà, il peut parler correctement, il n'a rien à foutre, c'est quelqu'un qui est en responsabilité, peut-être que... Voilà. Et puis c'est Zidane, merde.
Ça me fera un peu mal au cœur.
Non, ben vous peut-être, mais écoutez, moi j'ai un cœur assez gros, je l'ai trouvé. Vous, je ne sais pas, vous c'est peut-être, je ne sais pas, on n'a pas la même opinion. Il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne. Mais vous avez le droit, effectivement, vous, d'avoir un avis tout à fait différent.
Oui, mais je ne parlais pas forcément d'équipe de France. Je parlais de le voir entraîner notre sélection. Il n'a pas tenté de vous joindre, là, ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non?
Ah, certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone.
Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Vous avez Noël Le Graët, le président de la Fédération Française du Football, qui parle de la légende Zizou en disant « il ne m'a pas appelé et de toute façon, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. » Aïe, ça pique.
Pourquoi?
Parce que,
non, mais pour lui dire.
Pour lui dire quoi? Bonjour monsieur, non, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je vais mettre d'accord avec Didier.
Non, mais en fait, ce qui est très intéressant dans vos réponses, c'est ce qu'on
comprend
vraiment.
Vous êtes franchement là, très, très Zidane. Écoutez, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection.
Non, moi j'adore Didier Deschamps, j'adore aussi Zidane, bien sûr, en tant que sportif, et je respecte tellement le sportif, mais
je suis vraiment une grande fan
de Didier Deschamps, et ce qui est très intéressant d'écouter dans vos réponses, et ça transparaît aussi, c'est la confiance que vous avez en votre sélectionneur, et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important, justement, dans la relation entre un sélectionneur et un président,
écoutez,
d'avoir cette confiance.
On a montré en 10 ans, j'ai eu quelques petits désaccords, mais tellement minime, et le plaisir de déjeuner, de dîner, de se rencontrer. Il venait souvent en Bretagne, je le voyais souvent à Paris. C'est irremplaçable.
Absolument. Vous prêchez une convaincue.
Noël Le Graët est avec nous, le
Marion,
président de la...
Marion, vous pouvez m'appeler quand vous voulez.
C'est gentil.
Et quant aux partisans de Zidane, je n'ai pas votre nom en tête, mais je suis persuadé que vous êtes un grand connaisseur de football et vous ferez une émission spéciale pour Zidane.
Non, mais président, ne vous trompez pas de question. Je ne posais pas la question du... Moi, je me disais... Ma question, c'était est-ce que ça vous fait mal au cœur de voir Zidane signer au Brésil en tant que Français? C'était ça.
Non, je crois que vous avez répondu.
Je précisais.
Je ne vais pas vous répondre trois fois la même chose.
Non, mais...
Mais je m'en fous, hein. C'est ce qu'il a dit, je m'en fous.
Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, c'est juste que ne me faites pas passer pour un défenseur de Zidane, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et je vous posais la question de savoir si ça vous faisait mal au cœur.
Mal au cœur. Mon Dieu, je vous réponds à nouveau, non, pas du tout.
Je pense qu'on ne s'est pas compris sur la question, je n'étais pas du tout partisan de Zinedine Zidane.
On rappellera président Le Graët quand Didier Deschamps a gagné l'Euro, et on fera une belle émission.
Calme-toi quand le seul partisan de Zidane te parle. Ma chérie, je t'assure que je vais être gentil.
Non, mais je vous rappellerai, président, pour faire une belle émission quand Didier Deschamps aura remporté l'Euro. Et là, on fera une...
C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Allez, votre sentiment là-dessus, puis on va lire ce qu'en pense Vincent Duluc, hein, dans son éditorial, dans l'équipe, là. Hein. Tiens, je vous remets la une de l'équipe. Vous en pensez quoi? Il est fou, c'est tellement cringe. Je vous dis qu'il a bu, vous êtes plusieurs à penser qu'il est alcoolisé, en fait. Il est saoul, il est alcoolisé, il est cuit... Lunaire, une honte horriblement gênant. Est-ce qu'il a bu? Il était bourré? Il est bourré, c'est pas possible. Cette façon de parler par-dessus les gens. Il est aigri, le monsieur. Il est en roue libre. J'espère qu'il a pris quelque chose, me dit MMG. Qu'il dégage sérieux. Il a l'air tendu. C'est glauque, il a l'air bourré. Il n'a rien compris. Il était bourré. Vous êtes très nombreux à avoir le sentiment qu'il était alcoolisé. Voilà. On va aller voir ses excuses, puisque manifestement il a présenté des excuses ce matin, on va aller voir. On lit l'interview de l'édito de Vincent Duluc pour voir ce que l'équipe en pense. Maxent FR, j'ai vu ton sub tout à l'heure. Merci pour le 9e mois, c'est l'abonnement. Lisons ça. Hein, voilà. Je vais le découvrir avec vous, parce que je vous avoue que je l'avais mis de côté pour vous le lire. Et puis, j'ai pas eu le temps. Voyons ce que Vincent Duluc écrit, on l'a vu, c'est pas mal. Vincent Duluc, c'est quelqu'un qui a une jolie plume. Hors jeu. Pssst, c'est parti. Pardon, je fais des bruits dans mon micro. Au moins avant, il faisait semblant. Quand on l'interrogeait à toute heure du jour, Noël Le Graët se souvenait qu'il était président de la Fédération française de football, de ses responsabilités, de sa mission fédératrice. Mais depuis plusieurs mois, il traverse un crépuscule fatigué, en roue libre, indifférent à ce qu'on pourra dire de lui, aux dégâts provoqués par ses interventions et aux divisions que ses propos pourront susciter. Vincent Duluc nous dit que ça fait un moment qu'il est un peu bizarre, quoi. C'est pas la première fois, en écoutant le président de la Fédé, que l'on a le sentiment que sa fin de règne est un naufrage et qu'il n'en a rien à secouer, pour reprendre les mots qu'il a utilisés sur RMC dans l'émission de Marion Bartoli, à propos de la situation de Zinedine Zidane. Un président ne devrait pas dire ça. Ça rappelle. Il n'y avait pas une histoire avec François Hollande Hollande. C'était un livre, ça, hein. Vincent Duluc qui nous fait un petit clin d'œil à une actualité politique qu'il y a quelques années, ça. Ne devrait. C'est ça, hein, c'était un livre, hein. C'est ça, hein. Exactement. Regardez, hop. Petit clin d'œil de Vincent Duluc à ce livre. Un président ne devrait pas dire ça. Les secrets d'un quinquennat. Le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme sur François Hollande, qui a fait parler beaucoup à l'époque. Donc, un président ici de la Fédération ne devrait pas dire ça, écrit Vincent Duluc. Un président de la FFF ne peut pas évoquer Zinedine Zidane avec un tel irrespect, parce que lui-même incarne la FFF. C'est ce que je disais à quelqu'un dans le chat qui disait « Bah, si c'est son opinion sur Zidane, il peut le dire !» Mais non, le problème, c'est le président de la Fédération française de football. Il ne peut pas parler comme ça de Zidane quand on voit ce que Zidane représente dans l'histoire du football français. Hein, ça pose un problème. Parce que lui-même incarne la FFF, et parce que Zidane, qui incarne beaucoup plus la France, les Bleus, le football, n'a jamais rien dit de plus offensif que d'avouer son intérêt pour le poste de sélectionneur un jour. Hein. Zidane ne fait pas mystère du fait qu'il rêve un jour d'entraîner les Bleus, d'être le sélectionneur des Bleus, après Didier Deschamps. Pour le football français, Noël Le Graët est devenu, écrit Vincent Duluc, un sujet d'embarras qui est en train de recouvrir doucement la trace, excusez-moi, je sors de 15 jours de maladie, de recouvrir doucement la trace de son remarquable parcours de dirigeant depuis plus de 50 ans. Hier, il a trouvé le moyen de scandaliser la France du football et jusqu'à ses propres joueurs. L'intervention de Kylian Mbappé, alors Kylian Mbappé est sorti de sa réserve, il a fait un tweet là-dessus, Kylian Mbappé. C'est une forme de courage, parce que même si tout le monde tombe sur le Gret, bon, il pourra tout à fait business totalement ne pas commenter ce genre d'histoire qui m'appelle. Et puis bon, bah non, il est sorti de son silence et il a fait un tweet qui a été très remarqué, qui compte des centaines et des centaines de milliers de likes. On est à près de 800 000. Hop, je vous montre le tweet de Mbappé qui a été posté à 9h59 hier soir. Mbappé qui a écrit: Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça. Près de 800 000 likes. Quand Mbappé parle, bah, ça a toujours un petit peu d'écho. Moi, je parle d'une forme de courage parce que il pourrait tout à fait, en mode business is business, moi ce qui m'intéresse c'est mon jeu, éventuellement mes revenus, hein, et je vais pas embrayer sur une polémique. Et donc, vous avez Kylian Mbappé qui tacle assez sauvagement le président de la FEDE, quand même, la Fédération Française de Football, avec lequel, par ailleurs, il a eu des sujets de tension ces derniers temps, notamment sur l'histoire des sponsors de l'équipe de France, si je ne dis pas de bêtises. Donc, mais en même temps, il sort de sa réserve, alors que je pense qu'il y a plein de joueurs à sa place qui auraient été en mode « Oh là là, je vais les laisser régler leurs histoires ». Et là, vous avez Mbappé, hier soir, qui sort du silence, qui est un des premiers à sortir du silence, d'ailleurs, pour critiquer assez vertement les propos de Le Graët. Je reviens à l'édito de Vincent Duluc. L'intervention de Kylian Mbappé, tacle énorme pour un gars qui défend aussi peu, excellent, puisque c'est un attaquant, dit à quel point le président de la FFF quitte trop souvent depuis quelque temps le territoire de la sagesse et de la responsabilité. C'est pourtant ce que l'époque, la FFF et sa fonction réclament. En se montrant aussi peu respectueux envers Zidane, au lendemain de l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps, Le Graët place son sélectionneur dans une position très inconfortable. Même pour Didier Deschamps, les propos de Le Graët, là, c'est pas terrible. Hein. Hein, ça le fragilise un peu parce que... Ouais. Enfin, je pense que Didier Deschamps a dû halluciner quand il a entendu ses propos, je suppose. C'est en tout cas l'analyse de Vincent Duluc. Le Graët place Didier Deschamps dans une position très inconfortable en dessinant deux camps irréconciliables. D'un côté, les partisans de Didier Deschamps, de l'autre, de Zidane. Il y avait tellement de bonnes raisons de prolonger Deschamps qu'il n'est pas nécessaire de faire croire par ses déclarations qu'il pouvait en exister de mauvaises. Il est temps que le patron de la FFF se sépare de l'illusion qu'un mondial réussi lui offre une immunité. Je termine l'édito. Au-delà de l'audit, parce que c'est pas le seul souci qu'a Le Graët, hein. Au-delà de l'audit demandé par le ministère sur le fonctionnement de la fédération, qui ne débouchera pas forcément sur quelque chose de concret pour les dossiers les plus attendus, il n'est guère acceptable pour le sport français le plus puissant, le plus populaire, donc on parle du foot, d'avoir pour porte-parole principale un dirigeant qui suscite alternativement la gêne et l'indignation. Et c'est justement parce qu'un président ne devrait pas dire ça que Noël Le Graët, peut-être, ne devrait être plus président. Vous avez Vincent Duluc dans l'équipe ce matin, donc, et qui engage la parole de l'équipe, qui dit qu'en gros, Noël Le Graët devrait être démissionné ou devrait démissionner. Puisqu'on parlait des réactions, vous avez aussi la ministre des Sports, hein, qui a réagi, hein, qui a demandé à Le Graët de s'excuser auprès de Zidane. Hein, je vais vous retrouver le tweet. Alors, où elle est, Amélie Oudéa Castéra. Je vais retrouver son compte. Quic, quic, quic. Voilà. Je vais vous montrer le tweet de la ministre des Sports. Ici. Ça a été posté, regardons l'heure, c'est toujours intéressant, hier soir également. Donc un petit peu après le tweet de quelques dizaines de minutes de Mbappé, la ministre des Sports quand même, hein. Déclaration à nouveau hors sol avec en prime, cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport, un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Vous avez la ministre des Sports qui est exactement sur la même ligne que l'équipe. Des excuses, la ministre qui demande des excuses pour ce mot de trop sur Zidane, SVP. Voilà. Et tout à l'heure, vous m'avez signalé que, justement, Noël Le Graët avait présenté des excuses. Bon, on va aller voir ça ce matin. Est-ce que c'est un communiqué ? Est-ce que c'est une interview ? On va aller voir. Et après, je vais lire vos réactions, bien sûr, là-dessus. Balek nous dit polémique rabâchée sans intérêt. Rabâchée, la polémique elle date d'hier. Rabâchée de quoi? Elle vient de naître, cette polémique. Elle n'est pas rabâchée du tout, on est chaud là. Noël Le Graët. Qu'est-ce qu'il raconte, Noël, alors? Alors, excuse. Donc, on a un papier de l'équipe ici, justement. Noël Le Graët s'excuse après ses propos. Alors, c'est une déclaration effectuée ce matin. Voilà, propos dont il s'est excusé ce lundi. Ces propos maladroits, dit-il dans ce communiqué, ont créé un malentendu. Je tiens à présenter mes excuses personnelles pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. On parle de Zidane, bien sûr. Ok. Alors attends, c'est juste un communiqué, en fait, c'est tout? Moi, je l'ai entendu sur... Non, il n'a pas parlé à RTL. Je n'ai pas parlé ce matin. Je me demande s'il n'a pas parlé sur RTL Le Graët ce matin. Non, non, c'est une bêtise. C'est une déclaration a priori à l'agence France Presse, à l'AFP. Ok, d'accord. Ok, bon, vous les amis, vous en pensez quoi alors? Je vous lis un petit peu. Et puis on enchaîne, hein, on va parler de la réforme des retraites, bien sûr. Service minimum, ses excuses, me dit Fraiselover. Il s'excuse uniquement parce que ça fait un bad buzz, Nanès. Ok. Ouais, le Real Madrid a fait un communiqué. Allez, Alexis, ouais, j'ai vu, effectivement. On me dit que le communiqué du Real est bien aussi. C'est vrai qu'on l'a vu passer, là. Allons voir, on l'a vu passer là. Où est-ce qu'il est, mon communiqué? Alors, on l'a vu là. Dans le papier de l'équipe, je crois. Oh, ici. En espagnol. On va se le dire en espagnol. Comunicado oficial del Real Madrid. Alors. Bon, il condamne les propos. Qualifiant Zidane d'une des plus grandes légendes du sport mondial. Un manque de respect sur une des figures les plus admirées par les passionnés et les fans de football à travers le monde. Notre club, donc c'est le Real qui parle, espère une rectification, une excuse immédiate. Voilà. Les déclarations, je vous traduis à la volée, hein, du président de la Fédération française de football sont indignes de quelqu'un de ce niveau de responsabilité. C'est disqualifiant pour Smith-Mask, comme Olaska. Voilà. De même que les propos que Le Graët, dit Le Real, avait tenus concernant Karim Benzema. Hein. Voilà. C'est vrai que Le Graët s'était aussi tapé Benzema. Voilà. Ben, j'adore l'espagnol. Je ne parle pas couramment, mais je trouve que c'est une langue magnifique. Allez, je vous lis un petit peu. Toc. Alors, le sondage, c'est bon. Tac, 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 tac. Attendez, hop, et hop, voilà. Allez, Zidane, président et Deschamps sélectionneur, propose Zach Pix. Attendez, je suis en train de régler des trucs. Voilà, c'est bon. Oh, on a un jeu. Oh, là, un gros raid de notre ami Martin Martin. Salut Martin. Martin Martin, le DJ et sportif par ailleurs. Je le vois toujours en train de faire du sport, Martin Martin. J'ai vu une très belle photo de toi quand t'es à Roland-Garros, hein, pour la mobilisation des streamers pour le Téléthon. Martin Martin, notre DJ préféré, allez voir sa chaîne, c'est que du bonheur, c'est que des belles ondes, vient de nous raid avec plein de gens qui nous rejoignent, merci. On était en train de parler de l'affaire Noël Le Graët, vous savez, les propos du président de la Fédération Française de Football sur Zinedine Zidane, et on lisait à l'instant les excuses qu'il a formulées ce matin qui ne seront peut-être pas suffisantes pour sauver son poste. Merci Martin pour son raid. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ta chaîne ce matin. J'espère que la semaine démarre bien pour toi. Dounis, merci pour le 17e mois d'abonnement. Renan Nan, merci pour le 17e mois. Nathan MDK, merci pour ton Prime. Tateur de rondelles, ça fait longtemps que je ne t'avais pas lu. Merci pour le 10e mois d'abonnement. Maxon FR, merci encore pour le 9e mois d'abonnement. Allez, je vous lis un petit peu. On va faire un petit sondage pour finir là-dessus. Pignouf, ce mec doit quitter son poste. Il dégage une image tellement négative. On n'en peut plus de ce personnage. Merci Martin. Ouais, elle est très belle cette image où je te vois sur le central de Roland-Garros. Ça commence à faire beaucoup pour le Gret, écrit Tos. Entre ses sorties et ses affaires pénales, il ne peut pas décemment conserver son poste. C'est quand même la plus grande fédération. Elle se doit d'être irréprochable. C'est une affaire qui s'ajoute à d'autres, effectivement, tu as raison. Ok. Ok, petit sondage, et puis on passe à la réforme des retraites, ok? On fait ça? Merci, Estas Lavillas. Merci pour ce 11e mois d'abonnement et le gentil message. Allez, un petit sondage pour boucler cette histoire. Noël. Le Gret. Ça en fait des trémas, ça y en a partout, hein. Peut-il rester en fonction, hein, c'est la question qui se pose. Hein. En fonction. Oui. Il peut rester en fonction. Non. Je ne sais pas. Et c'est parti pour le sondage. Vous avez 2 minutes pour me dire ce que vous en pensez pendant que je lis encore quelques messages. Puis après, on passe à la réforme des retraites avec des choses très intéressantes aussi. Hop, je descends en bas du chat. Le sondage est parti. Moi, je dis, il faut régler ça entre eux sur le terrain face à Zidane. Balle au pied, me dit Défécateur. Déjà, la gestion du Qatar n'était pas acceptable, estime éditrice. Salut, t'es-t-elle baisée là? Mais pourquoi t'as pas une notif? C'est fou ça! Oh, ça marche plus les notifs sur Twitch. Il y a Gru qui nous signale qu'il nous manque en plus la deuxième partie de l'interview qui est scandaleuse sur sa succession, estimes-tu, sans parler de toutes ces casseroles? Anirukirintor, le plus creepy dans son interview, c'est le Marion. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. C'est vrai qu'on a entendu cette phrase, qu'on connaît le passif du monsieur. Ok, allons voir le sondage. Hop, le voici. Noël Le Gret peut-il rester en fonction? À 80%, vous répondez non. Vous êtes 6% à estimer que malgré tout cela, il peut rester en fonction. Vous êtes 13% à ne pas avoir d'avis sur la question. Je pense que les proportions ne vont plus changer. On va suivre ça dans les prochains jours. Juste peut-être, moi j'avais envie, par curiosité, d'aller voir les réactions sur Noël Le Gret. On a vu celle de Mbappé, on a vu celle de la ministre des Sports. J'ai l'impression que tout le monde a enchaîné ce matin au niveau des politiques. Vous allez voir, je pense qu'on va trouver plein de réacts. En général, il y a plein de politiques qui s'engouffrent un petit peu dans l'histoire. Ah, je vois qu'il y a une audition. Oula. Ah, c'est autre chose. Ça, c'est sur l'audit. Ok, d'accord. Je pense qu'avec un petit crible réaction, ça devrait nous donner quelque chose. Voilà, voilà, un papier de West France sur les réactions, regardez. Ribéry, notamment, parmi les réactions, Franck Ribéry, Djibril Cissé, Evan Fournier. Franck Ribéry, ah, je l'ai vu ce tweet, tu me régales. Et donc là, il parle de Le Graët. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement. Voilà, c'est une des réactions. Ouais. Et c'est Djibril Cissé qui a réagi aussi. C'est son tweet qu'on a vu là. Ah ouais. Moi, quand j'ai entendu les propos de Le Graët. Voilà. Bon, bah, à suivre alors. Hein ? À suivre, les amis. Voilà. La situation d'inconfort dans laquelle doit être Didier Deschamps n'empêche Melitos, je crois que tu as raison. Lui, quelque part, il se prend une balle perdue avec, avec cette histoire, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Effectivement. Sûr. Voilà. Très bien. Bon, on enchaîne avec la réforme des retraites. Ça vous va ? Hein ? À quelle sauce allons-nous pouvoir consommer notre retraite ? C'est la question qui se pose ce matin. On y go ? Vous êtes prêts ? Parce que c'est ce qui fait... c'est l'actualité qui est la plus à une de vos journaux ce matin, et c'est un avis, ça n'est pas terminé. Zéphir, merci pour le 17e mois d'abonnement. T'étais le baiser d'âge ? J'avais pas vu, merci pour le 9e mois. Vous êtes prêts ? C'est parti ? Voilà, ce matin à une de vos journaux, eh bien, il y a cette attente, puisque c'est demain que la Première Ministre, Elisabeth Borne, va donc dévoiler le contenu de... Eh bien, du texte portant la réforme des retraites voulue par le président Macron. Elle sera l'invitée de la Première Ministre du 20h de France 2 demain soir et dans la foulée de France Info, la chaîne d'info où j'ai le bonheur de travailler à partir de 20h30. On sera en édition spéciale à partir de 16h. On attend, bien sûr, soyons prudents. Certains journalistes croient savoir, notamment l'Opinion, le journal L'Opinion a fait fuiter des infos ce week-end, croit savoir effectivement que ce qui va être annoncé demain, c'est un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, donc plus 2 ans, plus une accélération de la réforme Marisol Touraine, c'est-à-dire une augmentation du nombre de trimestres à cotiser pour avoir une retraite à taux plein, plutôt que ce que souhaitait une partie de l'exécutif, c'est-à-dire un report de l'âge légal à 65 ans. Soyons prudents, c'est pas annoncé, on attend demain, il peut toujours y avoir des surprises, des arbitrages au dernier moment. C'est la une des échos ce matin, retraite les ambitions d'une réforme, donc plan présenté demain, un accord est en vue avec LR, c'est une autre info qui a été donnée ce week-end, on a notamment lu hier ensemble une interview d'Éric Ciotti, le nouveau patron du parti LR. Un accord est en vue avec LR afin de décaler l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2032. Pourquoi 64 ans avec accélération de la réforme Touraine, puisque a priori c'est ce que souhaitait justement la droite, les élus LR. Or il se trouve que le camp du président Macron a besoin, merci David Dufresne, c'est adorable pour le raid, on est en train de commencer notre petite revue de presse spéciale réforme des retraites, on a fait un petit détour par l'affaire Noël Le Graët. Merci à David, merci à ses amis, j'espère que vous avez passé un bon moment chez David, je suis sûr que vous avez parlé sûrement aussi un petit peu de la réforme des retraites. J'étais en train de dire que pourquoi a priori accord entre la Macronie et LR, parce que eh bien, le camp présidentiel a besoin des voix des députés LR pour faire passer cette réforme sans avoir recours au 49-3. Vous avez parlé de la réforme des retraites avec David ? Je suppose que oui. Hein. En tout cas, merci pour le raid, c'est adorable. J'espère que tu vas bien, David. Donc, c'est la une des échos. Mais plutôt que les échos, c'est la Croix qu'on va lire là-dessus. Pourquoi ? Parce que comme le Parisien dimanche hier, la Croix fait œuvre un petit peu de pédagogie et essaye un petit peu de nous expliquer terme par terme les enjeux de cette réforme, de ce débat. La réforme des retraites en question, passage en revue des questions qui font débat. On va lire tranquillement ce papier, très pédagogique, vous voyez, avec plein de questions. Est-ce que cette réforme est vraiment nécessaire ? Pourquoi on joue sur l'âge ? Âge légal, durée de cotisation, de quoi parle-t-on exactement ? Les régimes spéciaux sont-ils concernés ? Cette réforme est-elle socialement injuste ? Et à quel âge part-on dans les autres pays ? On va lire ce dossier et après on va en parler ensemble. C'est parti. D'abord, cette réforme est-elle nécessaire ? Ah ah ! Bon, on est sur l'essentiel de ce débat. Pour le gouvernement, la réforme qui doit être présentée demain a pour objectif de sauver le système de retraite par répartition dans lequel les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. C'est notre système, de retraite français qui est un des meilleurs, sinon le meilleur au monde. Voilà. Notre système de retraite par répartition, où ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent les retraites des retraités. Il s'appuie notamment, ce gouvernement, pour justifier cette réforme, sur le dernier rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, publié en septembre, qui estime que, effectivement, le système de retraite va afficher un déficit en 2027 de 12 milliards, puis de 32 milliards de déficit en 2035 et jusqu'à 60 milliards en 2050. Aujourd'hui, le système de retraite français, il est bénéficiaire, hein. Il est excédentaire, mais les prévisions du COR montrent qu'effectivement, à partir de 2027, on va avoir quelques années, plusieurs années de déficit. Le gouvernement nous dit donc que pour anticiper ce déficit, il faut le réformer pour le sauver. Ça, c'est l'analyse du gouvernement. Dans son rapport, le COR estime pourtant que ces projections ne valident pas, je cite, le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Donc le système n'est pas du tout en train d'exploser, nous dit le COR. Pour les syndicats, le système n'est pas menacé du tout, les précédentes réformes n'ayant pas encore produit tous leurs effets sur l'équilibre des comptes. Je trouve que cette phrase, elle est extrêmement intéressante. Les syndicats estiment que le système n'est pas menacé, les précédentes réformes des retraites, parce qu'il y en a eu d'autres, n'ayant pas encore produit tous leurs effets sur l'équilibre des comptes. Plus que le déficit, il faut surtout regarder la part des dépenses de retraite dans le PIB, souligne une économiste qui s'appelle Monica Kesser, qui travaille à l'OFCE, qui dit quoi ? Qui dit qu'avec des retraites pesant 14% du PIB, eh bien notre pays figure parmi les pays où cette part est la plus élevée, derrière l'Italie et la Grèce, et le COR ne prévoit pas qu'elle descende en dessous de 12% à long terme. C'est un choix de société, c'est un choix politique qu'a fait la France d'avoir un système de retraite généreux, hein, un des meilleurs au monde. Forcément, ça a un coût. Voilà. Alors certains estiment qu'il est trop élevé, ça c'est un débat politique. Par exemple, cet économiste estime que ça limite la capacité de la France à dépenser dans d'autres domaines. Lors de la campagne présidentielle, rappelle Lacroix, l'un des arguments d'Emmanuel Macron était justement qu'une réforme devrait permettre de dégager des marges de manœuvre pour financer quoi, l'éducation nationale, ou encore la dépendance, ou encore l'hôpital public. Les syndicats à l'époque avaient fait part de leur opposition en disant « l'argent des retraites ne doit servir qu'à financer les retraites et pas autre chose », disent notamment les syndicats. Je m'arrête sur ce premier point qui est essentiel, bien sûr. Cette réforme est-elle nécessaire ? Bon, je vous rappelle ce qu'on s'est dit le dernier jour là-dessus. Ça dépend. Ça dépend comment on lit le rapport du COR, les rapports du Conseil d'orientation des retraites. Aujourd'hui, le système, il est excédentaire. Tout va bien. Dans quelques années, effectivement, il va devenir déficitaire. Alors, certains, notamment du côté de l'exécutif et de la majorité, lisant les rapports du COR, disent on va vers des déficits importants, donc il faut absolument réformer le système, sinon il va cracher. Sinon, en gros, eh bien, ceux qui vont arriver dans les prochaines décennies à la retraite ne vont pas pouvoir en profiter. Bon, voilà. Ça, c'est le regard de l'exécutif et de la majorité. Et puis d'autres, les syndicats notamment, mais aussi la gauche et aussi d'ailleurs l'extrême droite disent, en lisant les mêmes rapports, en disant mais pas du tout, les déficits qu'on nous annonce pour les, à partir des années 2027, eh bien c'est l'épaisseur du trait, on est de l'ordre de 3% de ce que ça coûte globalement, et le système de retraite n'est absolument pas en danger, on pourra tout à fait le financer, le sauver autrement, ça on va en parler aussi ce matin, en augmentant les cotisations, que ce soit salariale ou patronale. Certains disent bah, pourquoi pas en baissant un petit peu les pensions, ou alors en allant chercher l'argent, en augmentant les impôts de certains, etc., 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 quoi. Donc il y a d'autres solutions que celle qui est proposée par le gouvernement, qui est donc de travailler plus longtemps, vous l'avez compris. Sur ce point important, cette réforme est-elle nécessaire ou pas ? Bon, bah, ça dépend de dans quel camp on se place. Votre avis, votre regard ? Algor38, je pense que tu peux faire mieux que ça au niveau du commentaire. La vie privée des politiques, on s'en fout en vrai. Là, on est sur quelque chose qui me semble plus essentiel. Alors, vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que vous estimez que cette réforme, elle est nécessaire ou pas ? Votre avis. Quand on demande aux Français ce qu'ils pensent de cette réforme des retraites, à 60, 70, 75%, ils n'en veulent pas. Hein. Alors, contre-réforme qui fait plaisir à la bourgeoisie mais qui dessert le peuple, estime éditrice. Oui, il faut bien de l'argent pour sauver ce système. La France est le pays qui taxe le plus. Il faut trouver d'autres moyens, dit à l'inverse Tibet. Aucune envie de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans, me dit Charogne. Nous sommes un des pays les plus taxés. 164 milliards de cadeaux aux entreprises par an, il y a de l'argent. Bon, en gros, tu dis qu'il y a de l'argent à trouver ailleurs. Quoi. Ok. Je vais avoir 50 ans, je taffe en hypermarché, je veux absolument pas entendre parler de cette réforme, dit Sarom. Je n'arrive pas à comprendre comment un même rapport peut être interprété de manière si différente, me dit Nuke Duke. Ah, ça s'appelle la politique, ça. Pourquoi ne parle-t-on pas des efforts que pourraient faire les retraités les plus aisés actuels, me dit Rider Homer. Bah, ça, c'est une des pistes qui a été lancée par les syndicats. Est-ce que les retraités les plus aisés ou les contribuables les plus aisés ne devraient pas être ceux qu'on va taxer un petit peu pour financer la retraite? Encore une réforme qui va créer plus de précarité, estime Meno Menos. Les gains de productivité ont beaucoup augmenté ces dernières décennies. Il y a largement de quoi financer le régime actuel, estime Zatanagor. Voilà. De Witch Lorraine estime qu'il faudrait plutôt augmenter les cotisations patronales, arrêter de les gaver sans contrepartie. Tu parles des entreprises. Et je lis encore un ou deux messages et je continue ce dossier parce que j'ai plein d'articles à vous lire sur les retraites. Twist, c'est encore une réforme qui va frapper plus durement les classes les plus pauvres. Comme Libération l'a publié plus tôt, les pauvres meurent plus tôt, on a des millionnaires qui gagnent plus et qui sont plus nombreux. Eux n'auront pas de problème. Gwen, admettons que cette réforme soit nécessaire, alors l'argent économisé devra vraiment permettre de financer le système de retraite et rien d'autre. Je ne comprends pas pourquoi, dit encore Gwen, pourquoi ils ne décident pas de taxer les riches pour financer notre système. Continuons notre lecture de la croix. Donc, cette réforme est-elle nécessaire? Vous avez vu que le sujet est compliqué parce que selon le bord politique dans lequel on se place, la réponse n'est pas la même. Du côté de la majorité du gouvernement, on estime que cette réforme, elle est ultra nécessaire. C'est aussi ce qu'on pense à droite du côté de chez LR. Si vous allez voir les syndicats, si vous allez voir la gauche, si vous allez voir le Rassemblement National, si vous allez voir aussi les sondages qui ont posé la question aux Français, la réponse, c'est pas du tout la même. La réponse, elle est non, on n'a pas besoin de cette réforme, on peut faire autrement. C'est un peu un dialogue de sourds. Pourquoi jouer sur l'âge? Pourquoi reporter l'âge légal de départ à la retraite? Question 2. Pour réduire le déficit, qu'on vient d'évoquer, bon, le déficit, c'est vrai qu'il va exister à un moment. Plusieurs leviers sont disponibles, nous dit Lacroix. D'abord, augmenter les cotisations. J'en parlais. Hein, ça peut être les cotisations salariales ou patronales. Parce qu'il répartit les efforts sur l'ensemble des actifs, ce levier est beaucoup moins brutal qu'une mesure d'âge, estime Michael Zemmour, hein, qui est maître de conférence à Paris. Hein. Selon lui, une hausse des cotisations salariales, par exemple de 0,8 points, c'est pas énorme, c'est vrai, suffirait à rééquilibrer le système. Si d'autres envisagent d'augmenter plutôt les cotisations patronales ou taxer le capital, la majorité présidentielle qui se refuse à toute hausse des prélèvements met en garde contre le risque d'une augmentation du coût du travail se répercutant sur les prix ou les salaires. Pourquoi le gouvernement, pourquoi le président Macron ne veut pas augmenter certains impôts ou certaines cotisations? Eh bien, le discours de la majorité et de l'exécutif, c'est la pression fiscale est déjà trop importante en France. Hein, Le mantra du président Macron, c'est plutôt de baisser les prélèvements obligatoires en France. Et donc, le président Macron dit moi, j'ai été élu pour baisser les impôts des Français, pas pour les augmenter. Donc, je ne veux pas augmenter les impôts et je ne veux pas augmenter les cotisations. Donc, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste une seule solution qui est de faire travailler les gens plus longtemps. Ça, je vous résume la position du gouvernement, qui rappelle que la France est déjà un des pays qui taxe le plus le capital, par exemple. Autre levier d'action, les pensions, hein, jouer sur le niveau des pensions de retraite, d'autant plus attrayante que le niveau des de vie des retraités français, légèrement supérieur à celui de la population, est parmi les plus élevés de l'OCDE. Est-ce qu'on peut réduire les pensions de retraite ? Bon, ça, c'est pas très, très, très populaire. Donc, ça n'a pas été retenu non plus par le gouvernement. Ces dernières années, pour faire des économies, les gouvernements, d'ailleurs, ont été tentés d'augmenter les pensions de retraite à un rythme inférieur à l'inflation. Continuer cette sous-indexation des pensions permettrait d'économiser, par exemple, 2,5 milliards d'euros par an. Le risque, c'est que c'est très impopulaire. Auprès des retraités, vous l'avez compris. Les mauvaises langues vont nous rappeler que les retraités sont assez nombreux à voter pour le président Macron. Quant à baisser le montant des retraites, le gouvernement écarte d'emblée cette solution politiquement très risquée, alors que les plus de 60 ans sont les seuls à soutenir la réforme des retraites. Quand vous allez voir le détail des sondages auprès des Français, est-ce que vous soutenez ou pas cette réforme des retraites, la seule classe d'âge qui soutient cette réforme des retraites, c'est les actuels retraités. Ce qui est assez compréhensible, en disant... puisque eux ne travaillent plus, ils sont à la retraite, qu'on propose aux retraités d'aujourd'hui que globalement les salariés actuels travaillent plus longtemps pour financer le système des retraites, bon bah les retraités sont d'accord. Bon, globalement, rien de très surprenant. Qu'est-ce qui reste donc une fois qu'on a éliminé la solution d'augmenter les impôts, la solution de monter les cotisations, de baisser les pensions, qu'est-ce qui reste pour le gouvernement? Il ne reste pas grand-chose. Il reste uniquement la solution d'un allongement de la durée du travail. Voilà pour qu'on en arrive à cette réforme qui permet, parce que double effet qui se coule, si on demande aux salariés français de travailler plus longtemps pour financer les retraites, qu'est-ce qui se passe? C'est un double gain. À la fois, vous augmentez les cotisations, okay, et deux, vous réduisez le temps passé à la retraite. Si vous partez à 64, 65 ou plus tard à la retraite plutôt qu'à 62, que sais-je, vous allez toucher moins de retraite, vous allez aussi coûter moins cher au système. Donc c'est doublement gagnant et ça fait rentrer plein d'argent dans les caisses. Voilà. Troisième point, âge légal, durée de cotisation, de quoi parle-t-on? Pour être tout à fait précis, la croix très pédago toujours. Il y a deux manières de jouer sur l'âge. D'abord en repoussant l'âge minimum légal de départ à la retraite. Hein, ça a déjà été fait en 2010, c'est la réforme Woerth où on passe de 60 ans à 62, l'âge légal. Là, on parle de passer à 64 ou 65. En réduisant d'autant la durée de retraite, ça permet de diminuer de 4,5% la pension totale versée à chaque retraité durant sa vie. Économie. On peut aussi jouer sur l'âge effectif de départ en jouant cette fois sur la durée de cotisation, hein, comme avec la réforme Touraine de 2014. Là, on parle cette fois d'accélérer cette réforme Touraine. Il s'agit alors de relever progressivement le nombre de trimestres cotisés nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein. A priori, la réforme qui va se faire va jouer sur les deux, report de l'âge légal de départ à la retraite et augmentation du nombre de trimestres à cotiser. Devant cotiser plus longtemps, les salariés partent mécaniquement plus tard à la retraite, en tout cas s'ils veulent une retraite à taux plein, bien sûr, ce qui repousse l'âge réel de départ au-delà de 62 ans. Aujourd'hui, par exemple, en 2020, l'âge réel moyen de départ à la retraite, il n'est pas de 62, il est de 63,3 ans, et on estime qu'en 2040, il sera de 63,9 ans. Petite pause avant d'aller sur les points suivants. Je vous lis un petit peu. Ça pose aussi la question du taux d'emploi des seniors. Vous savez que le taux d'emploi des seniors français est très très faible. Beaucoup d'entreprises se débarrassent des salariés les plus âgés en estimant qu'ils sont plus assez adaptables ou qu'ils sont trop chers. Paul Hoche sans gêne écrit « Je confirme, ma mère a 55 ans et galère à trouver du taf ». Et Arnaud écrit « Triple gain, beaucoup vont partir avant, faute de trouver du taf, avec des retraites réduites ». Et oui, il y a ça aussi. Et encore les économies, bien sûr, pour l'État. Sido 775, un grand merci pour ce 17e mois d'abonnement. Tel BZH, mes parents ont cotisé toute leur vie, ils ont travaillé. Mon père est décédé à l'âge de 42 ans, ma mère à 62 ans. La première année de sa retraite, et ne sont malheureusement pas les seuls. Bon, moi-même, j'ai perdu ma maman assez tôt et elle n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite non plus. Blue Bulmari, merci, c'est très gentil, merci pour ton message. Zigoto. À l'heure actuelle, la moitié des gens qui partent à la retraite sont inactifs. Ça coûte extrêmement cher aux contribuables. La France est le pays d'Europe avec le moins d'actifs de plus de 55 ans. C'est ça le problème, pas l'âge de départ. On va en parler avec Libération de tout ça. Merci Pauline. Merci Pauline. Pauline dit pour le Prime et merci Chep69 pour le 14e mois et pour le gentil message. Continuons à lire ce dossier assez, assez clair de la Croix sur cette question de la réforme des retraites. Les régimes spéciaux sont-ils concernés ? Le gouvernement a annoncé vouloir supprimer les régimes spéciaux de retraite, de la RATP, des industries électriques et gazières, EDF par exemple, de la Banque de France, selon la clause du grand-père. Qu'est-ce qu'on appelle la clause du grand-père ? Comme pour la SNCF en 2018, seuls les nouveaux entrants dans ces entreprises seraient concernés. Les autres continueraient à bénéficier du régime actuel jusqu'à la disparition du dernier pensionné, c'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Mais les régimes spéciaux en voie de disparition seront aussi touchés par un report de l'âge de départ. Est-ce que les régimes spéciaux seront concernés par cette réforme ? La réponse est donc oui. Est-ce que, question essentielle, est-ce que cette réforme est socialement juste, ou plutôt injuste, comme se demande la Croix ? Le recul de l'âge légal de départ à la retraite, c'est ce qu'on va nous proposer a priori demain, touche principalement les catégories populaires qui ont souvent commencé à travailler tôt et qui peuvent le plus souvent partir à 62 ans avec tout leur trimestre. Évidemment, donc si on repousse l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ou 65 ans, les classes populaires, notamment ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, vont être le plus touchés. Les plus diplômés qui ont travaillé plus tard n'espèrent déjà plus depuis longtemps prendre leur retraite avant 65 ans. Je prends mon exemple personnel que vous connaissez peut-être déjà. J'ai fait des études supérieures jusqu'à 24 ans, ce qui n'est rien d'exceptionnel. Dans ma petite fiche que m'envoie la caisse de retraite, c'est marqué 67 ans. Papy Sam, vous pouvez partir à la retraite à 67 ans. Le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ou 65, pour moi, ne va rien changer. En revanche, peut-être que l'augmentation du nombre de trimestres à cotiser va changer quelque chose. Mais on voit bien que cette réforme touche plus durement ceux qui ont commencé à travailler tôt, notamment ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures. Voilà. C'est clair pour tout le monde ? Je suis en doctorat à 30 ans, au revoir la retraite, me dit Raji. Poloche sans gêne, père ouvrier en carrière, mort 2 ans avant sa retraite. Grand-père plombier en industrie, décédé 2 ans après sa retraite. Clairement, la tranche ouvrière connaît peu le luxe de la retraite. Ce que tu dis, Poloche sans gêne, est complètement confirmé par les statistiques, bien sûr. Skylar Noway, merci pour le 8e mois d'abonnement, c'est adorable. Je vous lis un petit peu et je vous lis le dernier passage sur qu'est-ce qui se passe dans les autres pays. Si les trimestres augmentent, alors moi j'ai pas fait le calcul encore, mais ce que tu dis Pomme m'intéresse, les bacs plus 5 finiront à 68-69 ans. Bah, aujourd'hui sur mon papier, moi, avant l'augmentation du nombre de trimestres à cotiser, je suis à 67 ans. Bon, effectivement, il y a de fortes chances qu'après la réforme, je doive travailler jusqu'à 68-69 ans. Je pense, sachant que je suis déjà cramé, quoi. J'ai pas du tout envie de bosser jusqu'à 68-69 ans, moi. Enfin bon. Est-ce qu'on me demande mon avis ? C'est déprimant hein, comme sujet quand même. Hein. Je ne suis pas en train de dormir, je suis en train de vous lire. Ah, je continue parce que j'ai encore plein d'articles à vous lire pour éclairer un petit peu ce débat. Dernier point, à quel âge part-on dans les autres pays? Parce que c'est aussi un argument qui est évoqué par les partisans de cette réforme. À savoir que ah, bah, dans certains pays, notamment européens, on a reporté parfois de beaucoup l'âge légal de départ à la retraite. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème, notamment avec la pyramide des âges qui fait qu'il n'y a pas assez de salariés cotisant pour les retraités. À quel âge part-on dans les autres pays? Alors là, c'est aussi un débat qui est éminemment complexe. Avec un âge légal de départ de 62 ans aujourd'hui, la France apparaît comme l'un des pays les plus généreux au monde avec la Suède ou le Japon. Mais, sur l'âge réel de départ, hein, plus élevé en France, on l'a vu, la comparaison internationale est d'autant plus difficile que les régimes et les conditions pour liquider sa retraite dans les différents pays sont extrêmement disparates. C'est pourquoi l'OCDE, par exemple, a choisi de regarder à quel âge part aujourd'hui une personne qui aurait commencé à travailler à 22 ans. Hein. La France affiche 64,5 ans, légèrement en dessous des moyennes de l'OCDE et de l'Union européenne. Donc on voit qu'on a un système finalement qui n'est pas beaucoup plus généreux que la plupart des pays auxquels on peut se comparer au sein de l'OCDE. Voilà pour ce dossier de la Croix, mais j'ai encore plein de choses à vous lire là-dessus. Voilà. Et puis pourquoi comparer? Comme le dit Mitrondil, c'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faut faire pareil. C'est un choix de politique, c'est un choix de société. C'est vrai que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, la France a fait ce choix d'un système de retraite de protecteur, généreux. C'est un choix politique, c'est un choix de société. Et le fait de conserver ce système est aussi un choix politique et un choix de société. Prenons Libération. Libération qui nous dit quelque chose de très intéressant aussi ce matin, qui nous dit, ben, y a d'autres solutions. Hein, il y a d'autres solutions que d'augmenter la durée du travail des Français pour sauver les retraites. Petit calcul et grande lacune. Hop, je vais directement à la page 2. Libération nous dit, je ne sais pas si Libération a raison, mais Libération le dit, une autre réforme est possible. Améliorer l'emploi des seniors. Bah oui, si vous augmentez l'emploi des seniors, ça va faire plus de cotisations, effectivement. Ouais. Mettre à contribution les entreprises. Hein, voilà, l'entreprise de payer un petit peu plus. Au niveau des cotisations patronales, par exemple. Deuxième piste. Payer à égalité femmes et hommes. Ah oui, vous savez qu'il y a un différentiel de salaire encore important entre les femmes et les hommes. Si vous augmentez les femmes, ça va aussi augmenter les cotisations. Inventaire des alternatives au report de l'âge de départ à la retraite. Des alternatives défendues par les syndicats, notamment. Et rester lettre morte, puisque le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Merci Cozy White pour ce commentaire qui n'a rien à voir avec le sujet, c'est très intéressant. Édito de Dove Alphon là-dessus, et on lit le détail du papier. C'est la réforme que les Français n'attendent pas. Dépourvu d'élan créateur, vide de souffle imaginatif, Emmanuel Macron en est réduit à adapter son projet au modèle désuet ultra-libéral de l'époque Margaret Thatcher, connu sous l'acronyme INAPA, il n'y a pas d'alternative. Et pourtant, c'est en tout cas l'avis de Libération. Il y avait des alternatives, comme le démontre notre enquête. Des propositions syndicales aux notes du Conseil d'analyse économique, en passant par les études de Terra Nova ou les rappels alors du Haut Commissaire au Plan, nombre de documents présentés ces derniers mois contiennent des pistes bien plus justes et équitables qu'une capitulation devant Éric Ciotti, devant la droite, et consorts. Nous le démontrons avec force, chiffres à l'appui, Libération estime qu'il y a d'autres pistes beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus socialement justes pour sauver notre système de retraite. On va lire ça tout de suite. Salut GF Sarah Honnête. On lit, c'est parti. Une réforme des retraites, pourquoi faire au juste ? Parce qu'on vit plus longtemps ? Parce que la plupart de nos voisins l'ont fait ? Pour investir ailleurs dans autre chose que la retraite, notamment dans la santé et l'éducation ? Parce qu'il faut plus de justice ? Renforcer l'emploi des seniors ? Ou bien parce que le système de retraite par répartition est en danger ? À la fin, on ne sait plus trop, puisque l'exécutif a raconté des choses assez différentes, estime Libération. Emmanuel Macron et ses gouvernements auront justifié ce projet par tous les arguments, ou presque, avec un discours volontiers mouvant. Mais s'agissant des solutions, ils seront restés collés à une idée fixe, hors du report de l'âge légal de départ d'au moins 2 ans, point de salut, c'est la réforme ou la faillite, disait encore ce week-end dans la presse le ministre Gabriel Attal. On comprend que l'idée soit attrayante pour le gouvernement, hein, ce report de l'âge légal de départ à la retraite. Cela permet non seulement d'augmenter les recettes en obligeant de nombreux travailleurs à cotiser plus longtemps, mais aussi de réduire les dépenses, puisque si vous partez plus tard à la retraite, moins vous en profitez, bien sûr. Les syndicats, eux, écrit Libération ce matin, ont plusieurs fois insisté sur le fait qu'à leurs yeux, la santé financière du système n'est pas menacée. Hein ? Les organisations de salariés qui ont proposé au gouvernement d'autres scénarios, passage en revue, nous propose Libé de ces autres solutions possibles. Par exemple, faire travailler davantage de seniors et payer autant les femmes que les hommes. C'est augmenter le taux d'emploi des seniors et puis augmenter les salaires des femmes. La CFDT et la CFTC insistent particulièrement sur le maintien dans l'emploi des salariés les plus expérimentés. Si l'emploi des seniors progressait de 10 points, pour rejoindre tout simplement la moyenne européenne, vous savez qu'en France, on est super à la bourre là-dessus, nos entreprises se débarrassent assez facilement des retraités les plus âgés, eh bien, si l'emploi des seniors augmente de 10 points, on résout quasiment l'équation financière, affirme par exemple Yvan Ricordeau, qui est le négociateur sur cette question des retraites de la CFDT. La CGT, tout comme FO, révèle quant à elle qu'atteindre l'égalité salariale réelle entre femmes et hommes permettrait également de renflouer la Sécu et les caisses de retraite à hauteur de 5 milliards d'euros par an. Pour réduire les dépenses, on pourrait aussi, comme le suggère une note publiée par Terra Nova, mettre les retraités à contribution, voilà, en rognant les pensions des plus aisés d'entre eux. Le gouvernement ne veut pas augmenter les impôts. Dans un document du haut-commissaire au plan, le négociateur retraite de l'UNSA, cette fois qui s'appelle Dominique Corona, a retenu ce passage. Une hausse de l'ordre de 1 point des cotisations patronales augmenterait les recettes de quelque 7,5 milliards. 1 point, c'est que dalle, réagit ce syndicaliste. On ne va pas fermer la France et les entreprises pour 1 point de plus. Qu'est-ce que nous dit Libération ? Bah, qu'il y a d'autres pistes. Hein ? Comme le résume ChatGPT Mathieu dans le chat, c'est un choix politique avant tout. Hein ? On pourrait augmenter les cotisations des salariés. Moi, je veux bien payer plus de cotisations. Des entreprises, cotisations patronales. On pourrait réduire les pensions des retraités les plus aisés. On pourrait augmenter certains impôts. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore ? On pourrait augmenter le taux d'emploi des salariés les plus âgés, plutôt que laisser les entreprises les licencier et les faire pointer au chômage. Parce que des salariés seniors qui continuent à travailler, ben c'est des cotisations en plus, etc. etc., etc. Bon, Libération nous dit qu'il y a d'autres pistes. Ces pistes ont totalement été écartées par le gouvernement. C'est ce qu'on appelle, comme certains le disent justement dans le chat, un choix politique. Bon, l'humanité est très en colère sur cette réforme. Vous ne serez pas surpris, on va le lire dans un instant, mais d'abord je vous lis vous. Je vais me chercher un petit café aussi tout à l'heure. Pépostil, faire baisser les salaires des ministres, députés, sénateurs aussi. Non, ça ne suffira pas. Il faut beaucoup de sous. Ça ne suffira pas. Pour quelle raison un patron ne veut pas de senior après 55 ans ? Il faudrait leur poser la question. David, est-ce qu'on a besoin de poser la question ? Un senior, eh ben selon un chef d'entreprise, ce serait moins adaptable. Hein, ça s'adapterait moins aux nouvelles solutions, aux nouvelles technologies, que sais-je. C'est peut-être moins malléable, c'est peut-être un peu moins facile à bouger hein, qu'au tout début d'une carrière. Et puis surtout, ça coûte plus cher aussi. Hein. Voilà, donc je crois que c'est assez simple. Voilà. Mais sauf que c'est se priver d'expérience, c'est se priver de maturité, c'est se priver de plein de choses. Donc on a un problème en France par rapport à ça. Quoi. Alors Barbarous n'est pas d'accord. Ouais, augmenter les impôts comme si c'était pas déjà assez haut. Bon, ça c'est l'analyse notamment du président Macron qui estime que la pression fiscale sur les individus, sur les citoyens, sur l'entreprise, elle est trop forte en France. Vous êtes plusieurs comme Sodaprise, comme Adonis, dire qu'il faudrait faire un petit peu de tout en fait. Il faudrait aller un petit peu de cotisation, un peu de taux d'emploi, un petit peu de tout, quoi. Ah, très bonne question de Funambule. À partir de quel montant de retraite est-on considéré comme retraité aisé, hein? Là-dessus, les gens ne sont pas d'accord. Bonne remarque. GF Sarah Honnête, désolé pour le pseudo atroce. Oui, je confirme, c'est très très dur à lire. Mais merci d'être là quand même. Je lis encore un ou deux messages et j'enchaîne avec l'humanité qui est là, qui vous attend. Meltox 9, j'ai l'impression qu'on se retient toujours le côté négatif d'embaucher un senior et jamais le positif qu'il faut apporter. Moi qui commence à vieillir, je suis bien d'accord avec toi. Question de Tatatar GK. Est-ce que Malo a finalement réussi à donner le code de ta carte de crédit aux viewers? Oui, parce que maintenant Malo, dans sa chronique Pokémon, quand il passe, il offre des subs aux gens qui trouvent les bonnes réponses. Voilà, ce qui est en train de me ruiner. Donc maintenant, on fait gagner des subs ici, grâce à Malo. Et en plus, il balance mes numéros de carte bleue dans le chat. Donc là, j'ai des débits de fou, des gens qui ont acheté des équipements de incroyables. Voilà, c'est très très compliqué. Merci Malo. Eh bien. Il y a Horace Gris qui dit les termes. Allons-y. Allez, c'est cash. Je préfère nettement augmenter les cotisations, ce qui me permettrait de justifier l'augmentation de salaire et de ne pas obliger non plus les patrons à garder les débris boiteux dans leur boîte. Merci pour les plus âgés, c'est hyper gentil. T'es dur, toi, hein? Allez, Pépostille, on y va. Au final, vaut mieux profiter de sa vie et de son argent avant la retraite et espérer mourir avant, comme ça, pas de problème. Mais moi, je veux profiter de ma retraite, moi, je veux profiter de ma retraite, moi. Allez, un dernier message. Broubrou06, est-ce que tu penses sincèrement, Samuel, qu'un jeune de 30 ans comme moi, est-ce que tu penses sincèrement que j'aurai quelque chose, hein? Je pense que tu parles de la retraite. Moi, j'espère, hein, je parle aux plus jeunes d'entre vous, j'espère bien, les gens de 20 ans, les gens de 30 ans qui est avec moi là, j'espère bien que ce système de retraite assez ambitieux que la France a mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, j'espère bien qu'il va être maintenu. Hein, parce que c'est une question de solidarité. Je vous rappelle que les actifs d'aujourd'hui payent les retraites des gens qui sont à la retraite aujourd'hui. C'est un système par répartition de solidarité. Hein, vous ne cotisez pas pour vous, vous cotisez pour les gens qui sont actuellement à la retraite. Donc j'espère bien que la solidarité, elle va se poursuivre et que demain, les gens qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, ils auront aussi, ils vont pouvoir bénéficier de cette retraite aussi. Sinon, là, il y a une faille dans la solidarité nationale qui, en fait, qui met tout par terre, quoi. C'est extrêmement inquiétant, quoi. Alors, je suis pas un optimiste forcené, mais moi j'espère que la France en tant que nation, hein, j'espère que la France en tant que nation va créer les conditions de ça. Ce serait scandaleux, en fait. Ce serait scandaleux que pendant X décennies, des générations aient pu profiter des cotisations des actifs pour partir à la retraite, et qu'à un moment, on dise aux gens qui arrivent après, ah ben non, bah pour vous, vous avez cotisé pour les autres, mais pour vous, c'est fini. Hein. Et puis, on va faire autre chose, on va faire de la retraite par capitalisation maintenant. Hein. Vous allez, il n'y a plus de sous. Hein. Vous allez capitaliser pour vous. Donc vous avez cotisé pour les autres. Maintenant, vous allez cotiser pour vous. En plus, ce serait un scandale en fait. Ce serait un scandale. Donc évidemment qu'il faut sauver ce système de retraite pour maintenir la solidarité entre générations. Ce qui fait corps un petit peu. Hein, c'est de vivre ensemble. Si on fait pas ça, franchement, c'est la fin de tout. Hein. C'est la fin de tout. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux à y croire, mais je l'espère très très fort. Quoi. Qu'est-ce que Malo pense du fait que Sacha ne sera plus le héros de l'animé Pokémon? Je ne lui ai pas dit, Dougie, je ne lui ai pas dit parce que je trouve ça très très dur. Je ne lui ai pas dit. Comme le dit Tetel Bezedash, et je suis assez d'accord avec toi, c'est un très bon système, simplement il faut trouver les bonnes solutions pour le préserver. Et Choupichon, mais tu ne me blesses pas, mais tu as raison de me relancer, me dit, sans vouloir te blesser Samuel, hein, il ne t'a pas demandé ce que tu espères, mais ce que tu penses le plus probable. Eh bien, là pour le coup, moi qui ne suis pas très optimiste d'une manière générale, je vais l'être. Je pense que l'enjeu est tellement important que je ne peux pas imaginer que la France en tant que pays, en tant que nation, ne puisse pas prendre les décisions pour maintenir cette solidarité entre les générations. Voilà. Je ne peux pas l'imaginer. Pour moi, c'est impossible. Donc, je pense très très fort que cette solidarité va se maintenir. Sinon, c'est même plus la peine d'être une nation, quoi. Hein? Je ne veux pas le croire. Voilà. Donc, je l'espère très 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 fort. Pépostite, qu'est-ce que tu vas faire à la retraite, Samuel? Pff, un milliard de trucs. Du stream, déjà. Bon, on enchaîne. L'humanité nous dit, bon ben, un peu comme Libération, on aurait dû écouter un petit peu plus les syndicats quand même, il y avait d'autres propositions, donc je ne vais pas tout vous relire. Ce que l'humanité ajoute, c'est que le mot est assez fort, hein, cette guerre déclarée contre les syndicats par le président Macron, elle ne date pas de quelques semaines ou quelques mois, ça dure depuis 5 ans. Des ordonnances Macron en 2017 à la contre-réforme des retraites, dont les contours seront annoncés demain, le président et ses gouvernements ont méprisé les organisations de salariés et les corps intermédiaires. Je vais juste vous lire un petit passage de l'édito de Jean-Emmanuel Ducoin à ce propos. Bon sport Martin, et encore merci pour le raid. Voilà, c'est super sympa. Quand j'aurai un peu plus de temps dans ma vie, ce qui arrivera bien à un moment, il faudra que je prenne quelques arbitrages, j'espère qu'on fera des choses ensemble. Édito, Jean-Emmanuel Ducoin, Humanité à droite. Toutes, c'est pas l'UMA qui va à droite, hein, c'est le gouvernement, selon l'humanité, vous l'avez compris. Il y a, je lis, bien quelque chose de pourri au royaume de Macron. La contre-réforme des retraites qui sera dévoilée par Elisabeth Borne demain, la contre-réforme, dit l'humanité, est l'illustration la plus inquiétante en tant que genre. Voilà des semaines que l'exécutif disserte autour de ce texte majeur du second quinquennat du président, et toute la Macronie continue de vanter les mérites d'une concertation inventée de toutes pièces. Dans le journal du dimanche, Gabriel Attal, c'était hier, le ministre des Comptes publics, a même le toupet de déclarer que les mois écoulés ont permis de donner toute sa place à la concertation pour avancer. Les syndicats ne sont pas tellement d'accord avec cette lecture. On croit rêver, écrit l'UMA, contre l'avis de tous les syndicats, hein, CGT, CFDT, FO, CFE, CGC, CFTC, UNSA. D'habitude, ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, là ils sont d'accord. Ce qui constitue une sorte d'exploit, d'ailleurs, souligne l'UMA. Emmanuel Macron a bel et bien tranché sur ce que sa première ministre annoncera demain, report de l'âge de départ avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, un projet de loi scélérat, dit l'humanité, et une véritable provocation pour une grande majorité de nos concitoyens. Un peu plus de 5 années de mépris envers tous les corps intermédiaires et de guerre contre les syndicats, toujours considérés par Jupiter comme de simples instruments utilisables au gré des circonstances, se solde même par une grossière manœuvre de basse politique. L'affaire semble en effet conclue entre le gouvernement et le patron de LR, Éric Ciotti, qui a donné une interview hier à la presse, qui affirme que son parti acceptera probablement le texte. C'est vrai qu'il semble y avoir un deal entre la droite et la Macronie. Là-dessus. Je souhaite voter une réforme juste, a ainsi déclaré Éric Ciotti dans le JDD hier. Accord sans surprise entre libéraux à droite toutes, écrit l'UMA, d'où l'édito, le titre ici. Conjugué aux inquiétudes sur le niveau de vie, hein, l'inflation à la hausse des prix, le creusement des inégalités, le travailler plus longtemps d'Emmanuel Macron sera-t-il le détonateur? Quelqu'un posait la question dans le chat tout à l'heure. Est-ce que je pense qu'il va y avoir un gros conflit social après l'annonce de cette réforme? Je ne sais pas. L'humanité se pose la question. Ce projet sera-t-il le détonateur d'un mouvement social d'ampleur? Tous les responsables syndicaux vont se rencontrer quand? Demain soir. Après le discours de la Première ministre, le gouvernement mise sur la crise du pouvoir d'achat comme repoussoir aux envies de grève. Genre, les Français ont déjà pas mal de soucis, ils ont autre chose à penser que d'aller dans la rue. Ce serait le pari du gouvernement. Pari risqué pour l'humanité que seul déjouera un puissant front syndical. Et citoyens, vous avez compris que l'humanité appelle de ses voeux une très forte mobilisation populaire contre ce texte. Est-ce que cette mobilisation populaire contre ce texte va se produire ou pas? Je n'en ai aucune idée. Et vous? Vous en pensez quoi? Non, me dit Philomante. Il n'y aura pas de mobilisation. Alors, vous en pensez quoi? J'espère que oui, me dit Yama Aluminium. Pas de pause café aujourd'hui? Si, 1h58, t'as raison. Je vais en faire une petite wasp. J'espère que oui, je pense qu'il y aura un fort mouvement social, me dit la matraque. Probablement pas ou très peu, me dit Cody Live. Rien, ça s'épuise de partout, semble regretter Cercal. Moi, je vais manifester le 21 janvier, me dit Yolobix. Il ne se passera rien, pas de mobilisation, me dit Design Wargame. J'espère, me dit Glar. Je pense que oui, la mumzette. J'y serai, me dit Captain McBerenick. Adrien Victus, qu'avec ou sans mobilisation, le gouvernement va don't care, s'en foutra quoi en fait. Ok. N'en pensons rien, faisons-le, dit Schuker. J'irai perso, je vais en parler autour de moi, c'est quelque chose de structurant, il faut essayer de lutter, dit Syl Marilly. Il n'y aura absolument rien, pense Nojo. Désolé, ma boule de cristal est en panne, me dit Yogemini. J'ai le même problème. Alors vous savez quoi? C'est l'heure de faire une petite pause café et je ne vais pas la faire. D'abord parce que je vous aime et que je me donne corps et âme à cette revue de presse sur Twitch, mais aussi parce que, en fait, il me reste un dernier article sur la réforme des retraites. Et après, je vous emmènerai parler de l'Iran avec le Figaro, c'est super important. De ce dossier assez étonnant sur ces confidences d'ados étrangers délinquants dans le Parisien. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Mais aussi d'un article sur ce qui s'est passé au Brésil ces dernières heures, c'est dans le Parisien, et sur les innovations du CES de Las Vegas. Donc tout ça, ce sera pour une deuxième partie pour s'aérer un petit peu la tête de la réforme des retraites. Mais du coup, je veux finir avec ce dossier de l'opinion là-dessus. Ça vous va? On fait ça? Et après, on ira se faire un petit café. Hein. Pas ensemble, parce que vous êtes trop nombreux pour ma machine à café, chacun de son côté, on se retrouvera après une petite pause de 3 minutes. La question que pose l'opinion ce matin est intéressante, c'est pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi le président Macron tient à ce point cette réforme des retraites puisqu'elle est si impopulaire auprès des Français si on en croit les sondages? Alors, bon ça c'est l'alliance avec la droite, on en a déjà parlé, rien de nouveau. Incroyable cette émote. Oui c'est Malo, c'est mon aîné avec Pikachu. Alors pourquoi? Pourquoi le président Macron veut-il cette réforme? Pas mal ce dossier dans l'opinion. C'est ici. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Faute de réforme de l'État, promise en 2017, jamais réalisée. Faute de réforme des institutions, une commission transpartisane toujours pas constituée, censée y travailler, son calendrier arrêté, eh bien, la réforme des retraites est celle qui doit permettre à Emmanuel Macron de renouer durant ce second mandat avec son image de président réformateur. Qu'est-ce que nous dit l'opinion? Des réformes, des réformes vraiment importantes, essentielles, spectaculaires, dans ce deuxième quinquennat, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. La réforme de l'État, on n'en parle plus. La réforme des institutions, on n'en parle plus. Et donc le président Macron, s'il veut laisser quelque part une trace un petit peu dans l'histoire, comme il se voit lui un président réformateur, il faut qu'il fasse une réforme. Et donc, ça va être celle-ci. Il estime, il pense, il croit que c'est sur cette réforme des retraites que sera jugé son second quinquennat. C'est devenu dit Gaspard Kanzer, qui est un ancien conseiller du président Hollande, un sujet égotique, égo, pour lui, voire un test de virilité. Voilà. Il n'a pas envie de se chiraciser en ne faisant que de l'international jusqu'en 2027. Les réformes qu'il a conduites jusqu'ici ont laissé assez peu de traces dans l'opinion. C'est le politologue, ou plutôt la politologue Chloé Morin qui nous dit ça. Or, Emmanuel Macron cherche à laisser une trace. Il y a vraiment une question d'ego dans cette obsession à réformer les retraites, estime cette politologue, un enjeu symbolique démesuré au regard de ce que ça représente réellement. La dégradation financière du système de retraite le contraint à une réforme, écrit l'opinion, ayant fait le choix de ne pas augmenter les cotisations et de ne pas baisser les pensions, seul, et on l'a constaté ensemble tout à l'heure, seul un recul de l'âge de départ et ou un allongement de la durée de cotisation des actifs permettra d'équilibrer le système dans les années qui viennent. Même si le recul de l'âge de départ pourrait avoir pour conséquence une baisse des pensions, une partie des salariés renonçant à atteindre l'âge au temps plein et faisant le choix d'une décote. Si l'accord était conclu avec la droite avec LR, le principal risque pour Emmanuel Macron viendrait de la rue et de la mobilisation sociale. L'ensemble des syndicats des partis de gauche ainsi que le RN sont opposés à cette réforme. Laurent Berger, le patron de la CFDT, promet un embrasement social. Les Français aujourd'hui sont 67% à refuser tout recul de l'âge de départ à la retraite. En dépit des mises en garde des sondeurs sur le caractère inflammable de l'opinion et l'étincelle qui pourrait provoquer une explosion sociale, l'entourage politique du président relativise le risque de cristallisation des colères et parie sur la résignation, sur la passivité des Français. Certains soulignant qu'un accord avec LR, qui assurerait l'adoption du texte à l'Assemblée, sera de nature à affaiblir une éventuelle mobilisation des Français, la réforme apparaissant inéluctable. Voilà. Pourquoi le président Macron tient à cette réforme ? Voilà. Pourquoi l'exécutif ne pense pas que la mobilisation va prendre dans la rue ? Voici les arguments évoqués par l'opinion. Je sais que je fais beaucoup de bruit avec mon journal, j'adore. Merci Dali24 pour le très gentil message et le 10e mois d'abonnement. C'est trop chou. Allez les amis, dans un instant, la deuxième partie de cette revue de presse, après déjà 2h04 à vous parler non-stop, avec un papier sur ces confidences d'atos étrangers délinquants dans Le Parisien, un papier sur ce qui s'est passé au Brésil ces dernières heures avec les pro-Bolsonaro qui ont envahi les lieux de pouvoir, un article aussi sur les dernières innovations présentées au CES de Las Vegas, et puis ça d'abord, on lira ça d'abord. Un point sur la révolte populaire en Iran. Merci Le Figaro. Ça, c'est dans un instant. Après, une petite pause café, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Voilà. Donc, je vais aller faire les niveaux, voilà, de cette tasse et de Papy Sam aussi, parce que je me fais aussi les niveaux. Un petit café. On se retrouve dans 3 minutes. OK ? Et puis, on continue cette revue de presse. Puis après, j'irai faire une petite sieste, parce que je suis déchiré. Alors... petite pause, qu'est-ce que je vais vous mettre comme... Ah ouais, on avait calé un truc qui avait l'air pas mal. Ok, on se retrouve dans 3 minutes. Vous aussi, vous avez le droit de vous faire un petit café, un petit thé, une petite tisane, un petit... qu'est-ce que vous buvez à cette heure-là, vous ? Nojo, il est parti pour un petit café, merci pour le 7e mois, c'est adorable. Hein ? Qu'est-ce que vous buvez, vous, à cette heure-là, vous ? Racontez-moi un petit peu. Ça boit quoi ? Café ? Café ? Pastis ? Ouais, Ricard, apéro ? On va manger, quelle heure il est ? Oh, midi 14, c'est tôt. Bière, ok, un coca, un Ricard, décidément, milkshake banane, thé, ouais, un grand verre d'eau, wasp, ok, on est sérieux, on est... un café, de l'eau, thé, rien, un thé à la menthe, ok, de l'eau avec mon repas, mais non, les gens sont sérieux, coca, gin, ok, midi 15, un petit gin, une bière, ok, ouais, vous êtes beaucoup en train de déjeuner, vous mangez super tôt, hein, putain, midi 15, vous bouffez. Je bois mes larmes héroïques. Oh, pff, c'est la réforme des retraites qui te fait ça. Ça c'est chaud, quoi. Thé, café, de la Javel, me dit Yonéa. C'est pas bon, ça pique. Ça pique. Un petit peu tout, me dit Mister Tutur. Je ne sais pas ce que c'est un peu tout. J'ai peur que ce soit illégal, non ? Tisane à la camomille, j'ai 84 ans, me dit Yofara. Ouais, ok, c'est cool. Ok, c'est cool. Ok, d'accord. Ok, allez, je vous fais une petite pause. Alors, vous buvez ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, le beginner va boire un coulis de pneus. Et on se retrouve dans 3 minutes avec mon petit café. Moi, ça va être un petit décap pour moi parce que après, je vais faire une petite sieste. D'accord ? Allez, musique pour les abonnés. Ne m'en voulez pas. Petite pub pour ceux qui ne le sont pas pour financer l'activité de votre streamer sur Twitch. A tout de suite, bande de beaux gosses. Tout de suite ! I'm Mal ça, c'est pas mal du tout ça. Comment ça va? Désolé, j'ai fait une pause un peu plus longue que prévu. Je suis passé par une visite à mon petit dernier Solal, 2 ans et demi, qui était sur le chemin de la sieste. Voilà, donc voilà, on a échangé tous les deux, voilà, sur le chemin de sa sieste. Et je lui ai dit que je le rejoignais juste après ce stream pour l'aider à s'endormir. En général, je lui dis ça, et puis le temps que je le rejoigne, il dort déjà. Mais c'est pas grave, je me mettrai quand même avec lui. Vilna, Cle Rouge, salut Samuel, pour revenir à avant, vu que le système de retraite est de type de solidarité, si les jeunes actifs de toute catégorie professionnelle donnaient 2 ou 3 jours par an pour réguler les retraites, est-ce que cela peut aider ou est-ce infaisable? Écoute, c'est intéressant ce que tu dis, c'est un peu sous le modèle d'une journée de solidarité. Mais c'est quelque chose que je ne vois pas évoqué par ceux qui participent à ce débat, voilà, du côté des syndicats par exemple. Donc je ne saurais répondre à ta question, mais en tout cas, je ne trouve pas ça totalement inintéressant. La question est de savoir est-ce que ce serait suffisant, ça n'est pas sûr. Bon, je propose maintenant de parler de l'Iran, et je voudrais remercier la presse écrite de continuer à nous parler de l'Iran, et ce matin notamment du Figaro. Voilà, il n'y a pas une journée où je ne guette pas les articles de la presse écrite pour voir où on en est de cette révolte populaire contre le pouvoir iranien. Et voilà, quand on dit la presse française ne parle pas de ce qui se passe en Iran, soulignons que le Figaro consacre sa une ce matin à cette actualité. Le seul souci, c'est que les nouvelles de ce mouvement que nous donne le Figaro ne sont pas très, très optimistes, vous allez voir. Merci Noir en Barre pour ce 12e mois d'abonnement, ça nous fait un an. Iran, les mollahs étouffent la contestation. Après de mois de répression, la révolte s'essouffle. Le pouvoir laisse se dégrader la situation économique du pays pour affaiblir la population. On va se pencher sur tous les éléments d'actualité dans un instant. On va juste lire l'édito d'abord de Philippe Gély sur cette question. Ennemi du peuple, dit Philippe Gély, ennemi du peuple étant le pouvoir iranien, je pense que vous l'avez deviné. Deux Iraniens ont été pendus samedi, portant à quatre les exécutions liées au soulèvement qui défie le pouvoir depuis décembre. Ils étaient accusés, ces deux Iraniens qui ont été pendus, vous avez peut-être vu ces images, d'avoir tué un milicien Basij, bras armé des Mollahs, dont d'être, je cite, des ennemis de Dieu. Ceux qui les avaient précédés au gibet avaient eu droit au même label, donc ennemis de Dieu, pour de simples dégradations sur la voie publique. Dans quel pays prend-on la vie de quelqu'un pour avoir incendié une poubelle? C'est la montée, la mère du jeune rappeur Saman Yassine. Ceux qui désignent arbitrairement ces ennemis de Dieu, au terme de parodies de procès et sur la foi de confessions obtenues sous la torture, sont les pires ennemis de leur propre peuple. Ils s'accrochent à leur pouvoir absolu, corrompu, réformable. Même la sœur du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a publiquement dénoncé son califat despotique. Non contente d'avoir violemment réprimé l'aspiration populaire à la liberté, la théocratie est en train d'asphyxier la société par des mesures économiques dont elle fait porter le blâme aux manifestants, on va y revenir dans l'article tout à l'heure. Dans un pays transformé en vaste prison, on ne peut pas incarcérer tout le monde, près de 20 000 arrestations à ce jour, alors on s'emploie à refermer la chape de plomb sur les citoyens épuisés. Merci pour tous ces F que je vois dans le chat. La dérive de l'Iran fait écho à ceux qui l'inscrivaient naguère dans l'axe du mal. Aucun autre pays n'aide autant la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, sur laquelle déferlent les drones de Téhéran. Ils pratiquent comme Moscou la prise d'otages d'État, détenant notamment 7 Français, déjà soumis aux sanctions occidentales. Ce régime est au cœur du commerce alternatif entre régimes parias. Plus rien ne semble pouvoir l'arrêter dans sa course à la bombe atomique. Prédateur de son propre peuple, l'Iran des Mollahs, représente aussi une menace pour le monde. Ennemi du peuple, menace pour le monde, c'est l'édito. Expliquons à Miguel ce qu'est ce F majuscule qui s'inscrit dans le chat. Nightbot vient le faire. C'est une touche qui est pressée dans un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty pour rendre hommage à quelqu'un qui est tombé au combat. Le F ici est pour rendre hommage aux victimes de la répression en Iran. Je disais, les nouvelles ne sont pas très très bonnes selon le Figaro, en tout cas sur ce mouvement. Iran, le pouvoir manie là la carotte et le bâton face à la révolte. Les autorités se montrent plus souples sur le voile, vous allez le voir, mais poursuivent les exécutions. Elles laissent chuter la monnaie pour que la population rende les manifestants responsables de la crise. Mohsen n'en est pas encore revenu. Avec mon épouse, on a voyagé avec la compagnie aérienne Mahan Air jusqu'à Dubaï. Normalement, avant le décollage de Téhéran, il y a toujours cette annonce, s'il vous plaît, respectez la loi, gardez le hijab. Mais cette fois, à l'aller et au retour, on n'a rien entendu dans l'avion. Et la plupart des femmes dans l'avion étaient sans foulard. À l'aéroport de Téhéran, c'était la même chose. Les femmes ont gagné, se félicite ce commerçant, jouant au téléphone, qui toutefois s'interroge. Une sorte de liberté, effectivement, aujourd'hui semble instaurée, mais va-t-elle durer? Aujourd'hui, les mollahs ne réagissent pas, mais qu'attendent? Mais n'attend-il pas le moment pour revenir demain et après-demain? L'anecdote illustre la fragilité d'une situation paradoxale. Après 4 mois d'une révolte contre le pouvoir théocratique, lancée par les jeunes iraniennes après la mort, vous vous rappelez, de cette jeune kurde de 18 ans tuée pour avoir mal porté le voile, la cause des femmes obligées jusque-là de porter le hijab en public a progressé. Pourtant, ces dernières semaines, les manifestations sont moins nombreuses. L'implacable répression d'un pouvoir habile à manier la carotte et le bâton a peut-être fini par porter ses fruits. Mercredi dernier, en recevant des iraniennes favorables au régime, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, affirma que les femmes qui ne portent pas complètement le foulard ne devaient pas être considérées comme hors la loi ou à mettre au banc de la République islamique. Affirmation surprenante de la part d'un dirigeant partisan de la ligne dure. Samedi, 2 jeunes ont encore été exécutés par la justice révolutionnaire. Ils avaient été reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors de manifestations. Exécution qui s'ajoute à 2 précédentes pendaisons de jeunes liées aux manifestations. Au total, la répression a entraîné la mort de plus de 440 personnes, la mise en détention de plus de 14 000 autres, la condamnation à mort de 14 Iraniens. Ce que l'article souligne, c'est qu'il y a une apparente détente, notamment par rapport au port de ce voile en Iran, donc ce qui pourrait laisser penser que les manifestants, quelque part, ont gagné. Il faut se méfier de ce sentiment, nous dit le Figaro. Les statistiques des rassemblements dans la rue ou à l'occasion de cérémonies de deuil des victimes de la répression attestent d'une nette décrue de la révolte. Au cours des dernières semaines, on a relevé une baisse notable du nombre et de la taille des manifestations à travers le pays, avec parfois seulement quelques douzaines de personnes. Pour le chercheur belge Jonathan Piron, on assiste à une transformation des modes d'action, avec beaucoup de graffitis dessinés sur les murs des universités, des sit-ins dans les classes au soutien aux professeurs dont les salaires ont été suspendus pour avoir défendu des étudiants, des appels aussi à libérer les étudiants emprisonnés, en particulier les leaders de la Fronde. Comme d'autres observateurs, il estime qu'on assiste à la fin d'une séquence, mais pas de la contestation en Iran. Il va falloir observer comment le mouvement se renouvelle en recourant peut-être à de nouveaux modes de mobilisation. Face à un pouvoir qui ne cédera pas sur l'essentiel, l'avenir de la révolte dépendra probablement de sa capacité à établir des structures non reconnues pour échapper aux syndicats ouvriers, étudiants, associations d'avocats noyautés par le régime, afin d'élargir sa base sociale et donner à son mouvement la dimension populaire qui lui manque cruellement. En seulement un mois et demi, la monnaie a chuté de 40%. L'inflation a progressé de 50% entre septembre et décembre. Ça parle aux gens, confirme un homme d'affaires, pour qui l'argument du pouvoir est de dire que c'est de la faute des manifestants, et si l'économie s'est autant dégradée. Selon lui, les autorités n'ont pas pris des mesures volontairement pour enrayer cette chute du rial. Elles n'ont pas injecté, comme elles avaient fait par exemple en 2019, des dollars sur le marché local d'échange, alors que l'Iran en a encore les moyens. Si elles n'ont pas fait à dessein cet effort, c'est pour mettre le poids sur le peuple pour qu'il ait encore plus peur de rejoindre la contestation et qu'il finisse par blâmer les manifestants. Cette arme financière, cette arme économique, utilisée par les autorités pour venir à bout de la contestation, après le répressif et après les arrestations, puis la reprise en main judiciaire marquée par les exécutions comme celle de samedi, ce serait la troisième arme, la troisième lame utilisée par le pouvoir. De son côté, la contestation paraît toujours en mal de structuration. Qui est le meneur ? Demande le commerçant que nous évoquions tout à l'heure. On ne sait pas. Tant qu'on ne le connaîtra pas, on ne peut pas laisser le destin du pays un inconnu. Que dit ce dossier du Figaro ? Qu'il semble à vérifier dans les prochains jours que la mobilisation populaire, la mobilisation pour la liberté, en Iran faiblisse en termes de manifestation. Voilà. Que la répression, les exécutions, les arrestations, mais aussi l'arme économique avec un pouvoir iranien qui sciemment laisserait l'économie se déliter pour mettre la pression sur les Iraniens et leur passer l'envie d'aller manifester, que cela pourrait commencer à porter ses fruits. Et peut-être qu'une nouvelle fois, parce que ce n'est pas la première fois, eh bien le pouvoir iranien l'emporterait sur les volontés de liberté de la population iranienne. Constat extrêmement pessimiste, je trouve, dans le Figaro. On va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Sur l'Iran, voulez-vous intervenir, commenter ? Salut Inforéa, bonne année à toi. Non, sur l'Iran, non, pas de commentaires, il n'y a pas de gens qui connaissent bien cette actualité ou ce régime. Voilà. Pourrait imaginer que parmi vous, il y a quelques personnes qui connaissent bien le pays. Oui, j'ai vu, Karatourba, ton commentaire. Le problème de certains médias occidentaux, c'est qu'ils ont considéré les manifestations en Iran comme étant contre le voile. Alors, pas les journaux que j'ai lus. Hein. Moi, j'ai trouvé, dans les articles que j'ai lus ces dernières semaines, personne qui disait que c'était surtout des manifs contre le voile, mais bien des manifs contre le régime. Peut-être que certains médias occidentaux que toi, tu as lus avaient cette analyse, mais c'est pas l'analyse que moi, j'ai lue dans les articles que je vous ai lus. Peut-être dans les premiers jours, tu as raison. Radiateur qui fut estime que dans les premiers jours, ce type d'analyse, on a pu les trouver, y compris dans la presse française. C'est vrai, c'est vrai. Mais plus depuis plusieurs semaines. Ouais, la question est de savoir. Et certains, d'ailleurs, depuis le début de ce mouvement, se posent la question si le régime des mollahs tombe, par quoi pourrait-il être remplacé, quoi ? On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci au Figaro et à la presse qui continue à suivre cette mobilisation des Iraniens et des Iraniennes pour plus de liberté. On va finir par trois articles dans le Parisien. Parisien qui consacre pas sa une à la réforme des retraites, ce qui est un peu une surprise, peut-être demain. D'abord avec un dossier en une qui est un peu étonnant, qui m'a interpellé, sur ces confidences d'ados étrangers délinquants. De quoi s'agit-il ? Après la chute de leur réseau, de jeunes Marocains qui dépouillaient les touristes parisiens ont raconté aux policiers leur vie quotidienne entre addiction et vol à la tire. Lisons. Page 2. L'impensable histoire des enfants des rues qui dépouillent les touristes. Lors du démantèlement d'un réseau d'Algériens qui a poussé des mineurs étrangers à multiplier les vols dans Paris, des policiers ont identifié 17 enfants tombés entre leurs mains. 5 d'entre eux se sont confiés sans phare. Je vous lis, mais après, on en parle. Qui se cache derrière cet acronyme qui donne des surfroids aux autorités judiciaires parisiennes? Depuis plus de 5 ans, les MNA, hein, les mineurs non accompagnés, font bondir les chiffres de délinquance de voies publiques dans la capitale. Difficile de faire parler ces enfants des rues, déjà fracassés par la vie et rendus très méfiants. Sauf que dans une enquête, et c'est ça qui est nouveau, dans une enquête inédite, à Paris, les policiers du département de lutte contre la criminalité organisée sont parvenus à faire témoigner des mineurs isolés marocains. Ils ont identifié pas moins de 17 enfants, le plus jeune a seulement 8 ans, tombés entre les mains d'un réseau d'adultes algériens, réseau qui a été démantelé le 13 juin dernier, réseau qui droguait ces mineurs, les poussait ensuite à voler des téléphones ou des chaînes en or au Trocadéro. 5 de ces mineurs, âgés de 11 à 14 ans, ont accepté d'être entendus en tant que victimes de traite des êtres humains. Pendant plusieurs heures, ils ont expliqué aux policiers tout ou presque sur leur parcours de vie. Ces mômes, écrit le Parisien, sont pour la plupart arrivés à Paris fin 2021, bercés par l'illusion d'une vie meilleure en France. Leur parcours migratoire est assez classique, ils ont presque tous rallié les enclaves espagnoles de Melilla ou Ceuta à la nage ou en forçant les barbelés. Malek, par exemple, a manqué de se noyer lorsque d'autres migrants qui ne savaient pas nager se sont agrippés à lui. Une fois en territoire espagnol, pour traverser la Méditerranée, il faut se cacher dans un camion prêt à embarquer à bord d'un cargo. Brahim, 13 ans, a risqué la vie en se dissimulant sous un poids lourd, à côté du moteur. Adil, 12 ans, est resté 8 heures dans une caisse à outils en position fœtale pendant la traversée. Une fois arrivé à Grenade, il n'y avait personne pour m'ouvrir. J'ai commencé à paniquer, raconte-t-il. Je frappais sur la caisse depuis l'intérieur, je ne pouvais plus respirer. Il sera délivré une heure plus tard au bord de l'asphyxie par des douaniers. Pour survivre, pendant leur trajet, sans argent, c'est la débrouille. Mehdi fouille dans les poubelles. Pour rejoindre Paris depuis Madrid, Mustapha s'est caché dans la soute à bagages d'un car. Une fois dans la ville lumière, après parfois une année d'errance, d'arrestation et de retour forcé au Maroc, les petits déchantent vite, cherchant à se rapprocher de leur communauté. Ils sont orientés par le bouche à oreille vers Barbès, vers le Trocadéro, où se trouvent, leur dit-on, des Arabes. Là, Adil est recueilli par des Algériens, des adultes cette fois, âgés entre 30 et 40 ans, qui leur proposent leur aide. Ils nous traitent comme des petits frères, ils nous initient au sarouk, hein, fusée en français, hein, c'est un médicament utilisé comme une drogue, c'est du Lyrica, ou encore à la rouge, le Rivotril, médicament détourné en drogue de rue ultra addictif. Gratuitement dans un premier temps. Et puis une fois dépendants, ces jeunes, ces enfants, Adil comme les autres, sont incités à voler pour avoir leur dose. Ce sont des adultes, d'anciens voleurs, qui leur apprennent à chaparder. On doit payer en téléphone, explique Adil. J'allais au Trocadéro presque tous les jours pour voler des téléphones parce que j'aimais prendre ces médicaments. La consommation des enfants de rue donne le tournis jusqu'à une plaquette de Rivotril par jour, 28 comprimés, dose potentiellement létale. Jusqu'à tomber KO, confesse Younes, 13 ans. Piégés dans cette soumission chimique, les enfants plongent dans une spirale infernale. Pour consommer, ils doivent voler et pour passer à l'acte, ils doivent consommer. Les effets de ces psychotropes poussent ces jeunes à commettre des vols de plus en plus violents. Ce pourrait même nous pousser à tuer, reconnaît Brahim. Lorsque je prends les médicaments, je ne sens rien. Si les policiers m'attrapent, je ne sens pas les coups, je peux les insulter. Rendus méfiants, ces gamins échappent à la protection de l'enfance, ils se clochardisent, les nuits ils les passent dans la rue, après la goutte d'or ils ont investi le chauffage, hein, ces grilles de soufflerie de l'aquarium de Paris au Trocadéro avant qu'elles ne soient retirées, ils se sont réfugiés cet hiver dans un squat du boulevard Pasteur sous le métro aérien de la ligne 6, près de la station Sèvres-le-Courbe, lui aussi rapidement fermé. Parfois ils sont mis à l'abri au foyer parisien géré par les associations Aurore et Hors la Rue pour le compte de l'aide sociale à l'enfance. Les enfants reconnaissent mentir à leurs proches, hein, restés au Maroc, sur la réalité de leurs conditions de vie en France. Lorsque j'ai ma famille au téléphone, je leur dis que je vais bien, lâche Mehdi, en montant ses scarifications au poignet. Au Maroc, tout le monde disait que l'Europe c'était bien, que les gens pourraient m'aider, mais si j'avais su, je ne serais pas venu, lâche Malek, un bras dans le plâtre, je ne veux plus de cette vie, dit encore Mehdi. Quelle perspective d'avenir ? À moyen terme, c'est l'errance. Aux yeux des adultes qui les exploitent, les enfants ont une durée de vie limitée. Une fois qu'ils sont trop grands, ils sont moins intéressants, explique le directeur de Hors la Rue, Guillaume Lardonchet. Malgré l'altération de leurs facultés liées à leur consommation et à leur vie d'errance, les enfants font beaucoup d'allers-retours vers d'autres métropoles européennes avec leurs bandes. Certains rentrent chez eux. Hein, les plus chanceux deviendront des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Voilà pour ce reportage dans Le Parisien. Voilà. Vous comprenez que ce que nous dit ce reportage du Parisien, c'est que ces jeunes, ces mineurs, c'est parfois ces enfants, sont à la fois des délinquants qui volent, qui agressent, et des victimes. L'un n'empêche pas l'autre. Les réseaux de passeurs de migrants ont du sang sur les mains, dit Kluglos. C'est extrêmement fort en tout cas. Excusez-moi, je suis en train de vous lire. Renifleur Fleur de Paix, merci, j'ai vu ton seul, merci pour le 14e mois tout à l'heure. Allez, je vous lis encore deux infos avant de filer, parce que j'ai un. Oh là, dans 10 minutes, j'ai un. Petit call pour le boulot pour France Info. Je voulais absolument vous parler du Brésil aussi ce matin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous lire les innovations du CES. Sur ce qui s'est passé ces dernières heures au Brésil, qui est plutôt inquiétant. Désolé, j'ai essayé de trouver quelques bonnes nouvelles ce matin, je n'en ai pas trouvé un milliard non plus. Avec ces pro-Bolsonaro qui envahissent les lieux de pouvoir, vous avez peut-être vu les images à la télé ou sur Internet, des partisans donc de l'ancien président Jair Bolsonaro, l'ancien président de l'extrême droite brésilien, battu de justesse en octobre, qui ont pris d'assaut ses partisans, ce dimanche, plusieurs bâtiments officiels de Brasilia, 2 ans après l'assaut du Capitole à Washington. C'est vrai que c'est des images qui en rappellent d'autres. Comme un remake de l'assaut du Capitole américain ou presque, des centaines de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro sont donc parvenus ce dimanche à accéder à cette place des trois pouvoirs à Brasilia, presque 2 ans jour pour jour après l'assaut du siège du Congrès à Washington, par des soutiens, vous en souvenez sans doute, de Trump. Ils se sont introduits dans les bâtiments officiels qui les entourent, le palais présidentiel, le Congrès et le tribunal suprême fédéral. Le président Lula, 77 ans, était absent de Brasilia dimanche, bon depuis il est revenu, il se trouvait dans l'état de Sao Paulo, dévasté par des inondations en fin d'année. Mais il a immédiatement condamné l'invasion des lieux de pouvoir à Brasilia par des vandales fascistes et décréter une intervention fédérale sur les forces de l'ordre pour reprendre en main la sécurité de la capitale. Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient des manifestants aux couleurs du Brésil, certains étant masqués, détruisant ce qu'ils pouvaient y trouver. Un député a dénoncé sur Twitter des vols d'ordinateurs, de tables, de chaises, de portes dans le palais présidentiel du Planalto, qui est le siège du pouvoir exécutif brésilien, du mobilier a été détruit par les manifestants, des vitres brisées. Images qui ont rapidement trouvé un écho, celui de l'assaut du Capitole aux États-Unis le 6 janvier 2021, donc c'était il y a 2 ans maintenant, quand le président américain Donald Trump avait appelé ses soutiens à se réunir devant le siège du Congrès, rassemblement qui s'était rapidement transformé en émeute et des soutiens de l'ancien président américain qui s'étaient ensuite introduits dans le bâtiment pour tenter de bloquer la certification de la victoire de Joe Biden. 4 personnes à l'époque étaient décédées. Au Brésil, le contexte se rapproche du contexte américain de l'époque, toutes choses étant égales par ailleurs. Depuis la fin octobre et l'élection d'une courte tête du candidat de gauche Lula face à celui de l'extrême droite Jair Bolsonaro, les soutiens de ce dernier dénoncent en effet une élection truquée. Souvent comparé à Donald Trump, Jair Bolsonaro, qui avait timidement admis sa défaite et n'a jamais félicité Lula pour sa victoire, a quitté le Brésil fin décembre, 2 jours avant même la fin de son mandat, pour rejoindre les États-Unis. Voilà pour ça. On peut peut-être essayer de trouver des images quand même sur ce qui s'est passé au Brésil là. Pour ceux qui n'auraient pas vu. Alors vous avez ici des images justement des manifestants, des putschistes, tel que c'est évoqué par ce tweet, qui sortent menottés du palais présidentiel. Hop, regardez. Là, on est dans la chambre. Ici, autre scène dans la chambre du Sénat. Comme ça, vous en avez un peu partout. Et c'est vrai que ça rappelle énormément les images d'il y a 2 ans avec les partisans de Trump. Qui avaient envahi le Congrès. Enfin, le Capitole. Attaqué par des manifestants, etc., etc., etc. Voilà. Alors ça, c'est dans le Parisien de ce matin, puisque c'est un des journaux qui boucle le plus tard. C'est pas dans la presse écrite, imprimée ce matin, mais je suis sûr que demain, dans la presse de demain matin, il y aura encore beaucoup d'articles là-dessus. Voilà. Et il serait intéressant d'ailleurs, parce que là on est juste sur les faits, sur les images, de voir effectivement quels enseignements on peut tirer de ce qui vient de se passer au Brésil. Mais là je pense que j'aurai des choses à vous lire demain. Je vais aller très très vite sur le dernier article. Pourquoi ? Parce que mon réveil a sonné, puisque j'ai un rendez-vous téléphonique pour France Info dans un instant, après un petit stream de 2h42, c'est plutôt pas mal. Pour vous signaler que c'est terminé. Le CES de Las Vegas, hein, qui s'est terminé dimanche, des innovations pour vivre mieux, voilà. Le grand salon de l'électronique, pour ceux qui ne connaissent pas, Le CES de Las Vegas a encore mis en lumière des inventions qui auraient un vrai impact sur notre quotidien dans un avenir proche. Alors, il y a des choses un peu gadgets, il y a des choses un petit peu ambitieuses. Certaines resteront au statut de prototype, d'autres deviendront des succès commerciaux, deviendront améliorer notre quotidien. Hein. Certains de ces produits peuvent révolutionner nos vies, donc parfois c'est un petit peu plus à la marge. Je vous signale par exemple une berline solaire, hein, c'est la Lightyear 2, je vous avais déjà parlé d'ailleurs de la Lightyear 1. Hein, avec cette voiture ici qui est totalement recouverte de cellules photovoltaïques avec une autonomie, donc on parle d'une voiture électrique solaire de 625 km. Alors, pour être tout à fait précis, dans les pays où il y a beaucoup de soleil, dans un pays comme la France, c'est pas du tout cette autonomie de 625. Mais enfin, rêvons un instant, une voiture électrique solaire. Hein, rêvons, imaginons. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, production de masse prévue en 2025, c'est demain, pour 50 000 euros. Voilà. Bon, c'est vrai que l'article que j'avais lu il y a quelques semaines là-dessus rappelait que sous certaines latitudes, ça pouvait avoir du sens, sous d'autres, un peu moins. Pour la France, en tout cas sur la moitié nord, c'était un petit peu juste. Voilà. Bon, moi, je trouve ça fait un petit peu rêver quand même. Dipaco n'est pas très gentil pour les Bretons. En Bretagne, autonomie 10 km. Alors, vous avez ça, vous avez. Alors, moi, ça, bah, moi qui vieillis, je trouve ça très intéressant. Un défibrillateur à domicile connecté. 50 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque en France. 80% de ces arrêts cardiaques ont lieu où ça? Au boulot ou au domicile. 80% des arrêts cardiaques. En France, c'est au boulot ou au domicile. Au boulot, ben, dans les grosses entreprises, de plus en plus, il y a des défibrillateurs. J'espère aussi dans les PME. Et ben, l'idée, c'est d'en installer aussi à la maison. Jeune créateur de Clark défibrillateur cardiaque léger, sur batterie, facile à transporter. Fabriqué en France, près de Honfleur, en Normandie. Attention, c'est français. Cet équipement médical indique la procédure à suivre, où on place les électrodes, un papapa pour intervenir rapidement. L'appareil détermine les réglages adaptés à la personne, prodigue la puissance pour faire redémarrer le cœur en attendant les secours. Testé, approuvé déjà par des milliers d'habitants de la région parisienne, nous dit Le Parisien. Ce défibrillateur portable de LifeAZ est disponible à l'achat pour 999 euros. Ou à la location pour 35,99 €. Qu'est-ce que vous en pensez? J'achète ou pas? Le défibrillateur à domicile connecté. C'est oui? Il y a Cute Beach Mouse qui aimerait que je stream encore quelques années qui me dit oui. T'as pas les moyens, me dit Correxo. Si, il y a Talino Creroux qui vient de lâcher un 15e mois d'abonnement. Et Camniji, un 4e mois. Tu si oui. Location, 35,99 €. Donc ça fait par an, ça fait... Ça fait pas loin de 400 balles, ça, autant l'acheter. Hein. Poloche me dit une petite batterie, des pinces croco et hop, ça le fera, pas besoin de ça. Ok. Si ça peut te sauver, why not? On avait réfléchi à en installer un dans les communs de la copro, dit Bagger Winter. Vous voyez, ça, c'est très sérieux. 1000 euros, j'aurais dit non, me dit From Edges, mais pour 999 €, ouais, c'est une affaire. Ok. Ça sert à rien de l'acheter si t'es pas formé pour l'utiliser. Oh, ça, c'est tout simple. Hein. C'est comme les défibrillateurs qu'il y a dans les lieux publics. Il suffit de suivre les consignes. Voilà. Imaginez, là, je défibrille direct, là. Oh, je forme Malo, je forme Solal, je forme Hélène. Voilà. Hein. Voilà, un petit test. Oui, je pourrais vous faire un test en direct. Pas mal de villages essaient d'en avoir dans les rues de leur ville, donc en avoir un site web serait un luxe, c'est sûrement pas inutile. Voilà. Faut apprendre à faire un massage cardiaque avant. Hein, oui. Voilà, comme le dit Démoclas, les défibrillateurs auto sont très simples à utiliser, te guident pas à pas sur les manips à effectuer. C'est ça qu'il me faut, moi. Ok. Défécateur, merci à toi, bon appétit. Bon, et puis un dernier truc. Ça, je vais me l'acheter, ça. Bon, moi, je vais m'acheter le défibrillateur automatique, là. Et puis, je vais m'acheter aussi ce laboratoire d'analyse d'urine. Connecté. Ça me fait rêver, ça. Spécialité de la santé connectée, Weavings élargit sa palette d'objets connectés à usage médical avec ce laboratoire d'analyse d'urine bardé de capteurs, facile à utiliser, facile à installer dans la cuvette. Il va venir détecter les biomarqueurs dans l'urine et lancer une analyse complète. Avec plus de 3000 métabolites, l'urine reflète particulièrement bien l'état de santé. Elle donne un aperçu immédiat de l'équilibre de l'organisme et peut aider à détecter et à surveiller une grande variété de données de santé, explique la start-up. Donc c'est un laboratoire à domicile qui s'intéresse notamment au pH, à l'acidité, qui est parfois un signe de déséquilibre entre protéines. L'application donne ensuite des conseils d'alimentation, voilà. Elle analyse votre pipi, puis après elle vous dit qu'est-ce qu'il faut bouffer. Selon la marque, ce galet de 9 cm, c'est dommage, j'ai pas de photo, est même capable d'identifier les différents utilisateurs de la maison. Appareil commercialisé 499 €, c'est une aubaine. Avec une cartouche d'analyse de 3 mois à remplacer via un système d'abonnement à 29 € par mois. Ce que je comprends, que c'est un espèce de galet à mettre dans la cuvette des toilettes. Ça analyse en temps réel votre urine et ça vous dit si vous êtes en bonne santé. Et tous les 3 mois, il faut changer le galet. Voilà. Bon, alors, vous prenez le galet, après avoir tiré la chasse, c'est mieux. Et vous changez le galet, c'est reparti, quoi. Hein? Hein? Je vais m'acheter ça, moi. Hmm? Quoi? Hein? Vous pensez quoi? C'est non? Il y a la Pantera qui nous dit, moi tous les mois je pisse dans le bocal de mon poisson rouge, c'est de survie, c'est que je suis en bonne santé. Ah ouais, il y a ça aussi. Ça, enfin bon, c'est pas très cool pour les poissons rouges, quoi. Ouais. 1. Dispensable, dit Papy Chuck. Écoutez, je vous laisse, je vais me l'acheter de ce pas. C'est simple. Bon, je voulais absolument finir sur quelque chose de plus léger. J'ai fini par du pipi. Voilà. Ah. Parce que bon, ça va, la réforme des retraites, l'Iran. Hein, les mineurs et étrangers délinquants, hein, voilà. Donc je vous abandonne, oui je vous abandonne sans horoscope, voilà, je vous abandonne sans horoscope, parce que il est 12h59 et qu'à 13h j'étais censé appeler quelqu'un et j'aime pas être en retard. Or je vais être en retard parce qu'en plus on va faire un raid. Avant ce raid, je vais vous dire un grand merci parce que ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver. Je vous avoue qu'en ce moment je suis un petit peu à la rue, un petit peu fatigué, les maladies de ces 15 derniers jours m'ont un petit peu usé. Voilà, et ce matin, j'étais pas à 2000% en me levant à 2h du matin pour la matinale de France Info, mais le simple fait de vous retrouver, voilà, et d'échanger avec vous, je peux vous dire que ça m'a fait énormément de bien. Donc pour ça, je vous dis un grand merci, merci beaucoup. Imsta aussi pour ce 4e mois d'abonnement. On fait comme d'habitude, vous me proposez maintenant dans le chat des noms de streamers, de streameuses en live, hein, et puis on raid. Hein. Alors je vous mets même pas de pause, on y va direct, quoi. Ah mais attends, je sais même où on va aller. Je vois une propale à l'instant, merci mon ami. Ouais, vous êtes formidable. Je sais où on va aller. Je sais même où on va aller. Ah, ça charge. Voilà, ah, on raid tout de suite. Je vous souhaite de passer une très belle journée, d'être heureux, de rendre les gens autour de vous heureux. N'hésitez pas à suivre cette chaîne sur Twitch et activer les notifications pour être prévenu quand je stream. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter parce que c'est là que j'annonce toute ma vie. Mes streams et autres, également mon compte Instagram, c'est Joe qui le gère, ça va lui faire plaisir. Joe, c'est mon sidekick, c'est mon pote de stream, celui qui nous accompagne dans l'hebdo Étienne, celui qui nous accompagne dans l'exposition Étienne, dans les musées, tout ça, vous savez quoi, il est en stream actuellement. Je suis crevé, faut que j'aille faire une sieste. Donc on raid Joe, faites-lui coucou de ma part, c'est un super être humain, mon Joe, c'est quelqu'un avec qui j'ai super plaisir à traîner et à bosser. Bon lundi, à demain matin pour la rue de presse, et encore merci pour tout, je me suis régalé. Voilà. C'est parti pour le raid. Ça part là, c'est en train de charger. Ça part dans 10 secondes. Ok, comme ça je finis mon café. Ah. Ou si vous avez une santé de merde en ce moment, oh, je suis cassé de partout, je me suis foulé le poignet. Oh, je suis vraiment de la loose en ce moment. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, bonne journée, à demain.